I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Aujourd'hui, on va vous parler des jeux annoncés les plus incroyables de l'histoire, y compris le jeu du papier toilette. On a aussi la suite du feuilleton Activision Blizzard Microsoft avec Sony qui part possiblement un petit peu en vrille. Les jeux auxquels on a joué en ce moment avec Call of the Mountain Horizon ou l'inverse. Destiny Lightfall qui est la pire extension de Destiny de l'histoire ou pas, et tout plein d'autres choses, c'est tout de suite dans le rendez-vous jeu. Bonjour à tous et bienvenue dans le rendez-vous jeu, c'est l'épisode numéro 284, nous sommes en mars 2023, je suis Patrick Béja et je suis très heureux de vous accueillir pour ce nouvel épisode. J'ai en ma compagnie, pour vous accueillir juste à côté de moi là, d'une part Maïté alias Escarina. Bonjour, comment vas-tu Maïté ?
Eh bien écoute, franchement, ça va très bien. Donc voilà, il faut
très
le dire
bien.
Aussi quand ça va bien.
Mais écoute, je suis presque surpris. On en parlait la semaine dernière et on va en reparler dans une seconde. Ton mari t'a fait une surprise du meilleur effet il y a quelques semaines.
Tout à fait. J'en parle tout de suite ou j'attends tout à l'heure ?
Écoute. On va attendre tout à l'heure, comme ça on va laisser un petit peu la surprise, mais tu en as parlé.
Il peut y avoir des déçus.
Oui, non, mais c'est ça, on n'est pas dans Gamerside, là. On se calme tout de suite, c'est en tout bien, tout honneur, mais c'est quand même assez incroyable ce qui s'est passé. Tu nous raconteras tout ça par toi-même tout à l'heure. Et on a aussi Mehdi Debabi Zourgani qui est là avec nous pour la première fois depuis...
Un moment.
8 ans. Un truc du genre. Incroyable, merci d'être avec nous Mehdi. Bah, je le rappelle, pour ceux qui l'ont peut-être oublié, t'as genre 12 casquettes différentes dans le jeu vidéo. Non seulement tu es auteur, non seulement tu enseignes à l'école Isard Digital, et en plus, tu as une activité de créateur de contenu, comme on dit aujourd'hui. Tu streams YouTube,
exactement.
Tout ça.
Oui, tout à fait, et même depuis peu, ça va arriver peu après l'enregistrement de l'émission, des contenus, parce que comme quoi, il ne faut jamais faire le boomer trop longtemps, des contenus plus short, comme on dit, donc tendance TikTok et compagnie. Donc voilà, on va essayer de voir ce que ça donne, et j'anticipe la blague à deux balles, là aussi, de boomer. Non, je ne ferai pas de chorégraphie et de danse, ce sera des contenus, effectivement, des takes sur l'industrie et tout ça. Voilà.
Tu vois.
Bon focus game design.
Je pensais que c'était une chaîne Twitch Bastub. Je suis un petit peu déçu.
Ouais, je crois que c'est tout.
Tu sais, quand Escarina nous dit son mari lui a fait une surprise, il lui a envoyé une photo, certains vont être déçus. Ma vraie déception, moi, c'est ce que tu viens de dire, c'est qu'il n'y aura pas effectivement de chorégraphie de Mehdi sur TikTok. Ça sera du vulgaire game design et pas des pas de danse incroyables. Bon.
C'est moche. On verra, tu sais. On sait jamais. Hein.
En même temps, ça pourrait... Oui, selon le nombre de followers, à combien est-ce que tu commences à faire ? Mais on pourrait faire des chorégraphies tirées de danses de jeu. Un truc du genre. Bon, en même temps, comme toutes les danses de jeu, c'est des danses de jeu. Il y a de quoi faire. Du coup, merci à tous les deux d'être là. Merci aussi aux nouveaux patriotes de cette semaine. Paul Boustany, Coraline Mercier, Jean-Raphaël Girard. Merci à vous trois, Paul, Coraline et Jean-Raphaël. Je vais vous révéler un truc sur mon enfance, tout à coup, là. Alors, c'est Coraline, mais moi, j'avais un crush énorme à 16 ans sur une Coralie, que je ne lui ai jamais dit. J'étais super boutonneux, enfin, je n'étais pas hyper populaire au lycée. Et là, tout à coup, le patronage de Coraline me fait penser à ça. Ça faisait des années que je n'y avais pas pensé. Oh là là. Je me demande ce qu'elle est devenue, Coralie. Coralie, comment elle s'appelle ?
Eh bien, justement, maintenant que tu en parles, en exclusivité aujourd'hui, on l'a invitée.
Je viens de me souvenir de son nom de famille. J'ai une mémoire, mais complètement, je ne vais pas le dire ici, mais j'ai une mémoire vraiment, vraiment lamentable et je viens de me souvenir de son nom de famille.
Ouais, c'est incroyable. La mémoire sélective.
Ouais, c'est ça. Donc, merci Paul, Coraline et Jean-Raphaël et merci aussi au producteur de cet épisode, Lancelot Davizard, qui a trouvé sur la page Patreon le niveau secret des producteurs que seuls les plus valeureux et valeureuses d'entre vous peuvent réussir à découvrir. Patreon.com/rdvjeux pour regarder un petit peu tout ça. Avant de se lancer dans les grosses infos de la semaine et les jeux incroyables dont on va vous parler, qui ont été annoncés, quelques petites notes de service. D'abord, la semaine prochaine, je serai en vadrouille avec les enfants, dans, toute la famille, la femme et les enfants, dans un studio de 20 mètres carrés pendant une semaine, avec deux enfants, 2 ans, 5 ans. Si je survis, on reviendra et on continuera à faire les émissions. Mais la semaine prochaine, il y aura un épisode spécial, assez intéressant d'ailleurs, sur un sujet que vous découvrirez. Bon, je vais vous le dire maintenant. On a eu une conversation avec deux développeurs sur l'état de l'utilisation de l'IA dans le jeu vidéo aujourd'hui, de l'IA, du scripting, quelles sont les différences, etc. Et comment on utilise l'IA et comment on développe l'IA. Ça sera la semaine prochaine, à la place de l'épisode classique. Et puis autre chose aussi, il y a dans quelques semaines de ça, le Battle 4 qui revient. Vous vous souvenez peut-être que l'année dernière, j'avais participé à cet événement caritatif en streamant et on avait des donation goals incroyables. Eh bien, ça recommence la semaine prochaine, pas la semaine prochaine, mais dans quelques semaines, dans fin avril. Donc, on participera à ça. Si vous voulez m'aider à trouver des donation goals cool, on fera quelque chose peut-être sur le Discord à un moment avec un channel dédié pour que vous m'inspiriez avec des bons donation goals. Il y a aussi le podcaston auquel j'aimerais vous référer. Alors ça aussi, c'est dans une semaine ou deux. Et je vous en reparlerai quand je reviens. Mais c'est une initiative assez cool sur toute la francophonie dans le podcast. Enfin, il y a plusieurs centaines de podcasts qui participent. C'est une sorte de téléthon du podcast. Et c'est en France, en Belgique, au Canada, en Afrique, enfin un petit peu partout. Donc on en reparlera dans deux semaines quand ça sera actif. Mais donc, il y a plein de choses qui arrivent dans le merveilleux monde des podcasts et dans le merveilleux monde de Patrick. Et donc soyez prêts. La première en tout cas, c'est pas d'épisode classique la semaine prochaine, mais je vous en pardonne pas, on aura un épisode spécial. Et du coup, je vous propose qu'on se lance dans les infos importantes à retenir tout de suite avec les annonces de jeux incroyables. Alors, je vous avoue, alors premier goal suggéré, dire du mal de Destiny pendant 5 minutes. Tu sais quoi ? Pur contact, on va réaliser ce goal même sans donation, sans donation, aujourd'hui, parce que je vais en dire un petit peu de mal. Et vous ne me croyez pas ? Vous allez voir tout à l'heure. Je vais aussi en dire du bien. Mais donc, des annonces incroyables de jeux qui vont vous faire rêver et qui peut-être vont vous ramener dans votre enfance ou ce genre de choses. Je ne sais pas si vous avez suivi les actus de jeux complètement fous, mais on va y venir. Et le premier d'entre eux, on y vient tout de suite, c'est... Est-ce que vous avez entendu parler de Bladesong ?
Oui,
maintenant oui.
Bon, vous lisez les notes de l'émission, c'est bien, c'est vrai.
Non, mais je les ai lues hier et je... Waouh !
Incroyable ! C'est un jeu auquel ta fille pourra jouer. Mais...
Pour faire son épée de princesse guerrière, ouais, c'est vrai que c'est une bonne idée.
Alors, Bladesong, c'est quoi ? C'est un jeu dans lequel on doit concevoir, designer et construire ses propres épées. C'est un jeu qui est en développement. Alors, j'ai vu un tweet passer, il a genre... quelques likes et quelques retweets. Il m'a tapé dans l'œil parce que c'est un jeu d'une originalité assez folle. La manière dont on peut customiser son épée, c'est fou. On peut vraiment faire la forme de la lame, genre à différentes étapes de la lame, comment elle se courbe, comment il y a les petites indentations, la garde, enfin tout ça. C'est clairement pas un triple A qui va se vendre à des millions d'exemplaires. Et je ne sais même pas si moi j'y jouerais, mais je trouve que c'est hyper original et intéressant comme idée de jeu, quoi. L'idée de faire un jeu du design d'épée.
C'est que ça.
Oui, c'est, on a l'impression, il est au début de son développement, mais on a l'impression que c'est que ça. Oui, juste tu designes ton épée. C'est plus un outil, presque, j'ai l'impression. Oui, Mehdi, vas-y.
Ouais, il y avait un jeu dans ce genre-là qui était sorti sur le store de la 3DS que je poste sur le live, qui était Weapon Omase, Shop des Omase, je sais plus dans quel ordre je le mets ou pas, vous avez le lien, mais qui était clairement beaucoup plus fantasque, déjà parce que japonais, histoire d'être dans le cliché, et ensuite parce qu'il n'y avait pas cette dimension de vraiment de personnalisation que tu as montré effectivement, Patrick, sur le jeu. Après, moi, je suis assez curieux de voir comment ils vont ludifier cette dimension de personnalisation et que ce soit pas, qu'on n'ait pas l'impression, parce que quand on voit les vidéos du jeu, d'avoir un tuto Photoshop ou Blender un peu semi-interactif. Donc j'attends de voir parce que ça m'intrigue quand même un petit peu, mais voilà, c'est juste ma petite réserve. Ouais. De game designer.
C'est vrai que là, alors tu vois, dans Weapon des Omase Shop, tu comprends un petit peu comment c'est gamifié. Là, sur Blitzong, encore une fois, c'est le tout début, tu comprends rien du tout. Tu vois juste qu'il design une épée, ça sera intéressant à suivre. Bon, je vous cache pas que c'était un petit peu pour la blague aussi que je parlais de ce jeu, même si c'est rigolo. Mais là, on tombe dans le truc vraiment sérieux avec les jeux qui ont été annoncés qui sont vraiment cool, avec Kamiga Nai, qui est le jeu du papier toilette. Et oui, c'est tout à fait sérieux. Et là, pour le coup, c'est un vrai jeu qui se joue avec un rouleau de papier toilette. Comment ça fonctionne? C'est un jeu Switch. Et vous mettez dans le tube du rouleau de papier toilette l'un de vos contrôleurs, de vos Joy-Con. Vous le stabilisez bien en mettant du papier toilette pour le coincer. Et ensuite, vous mettez le rouleau de papier toilette sur une petite planche de carton. Et vous le faites rouler de droite à gauche, et c'est un jeu en fait de plateforme d'équilibre. Vous devez simplement un petit peu comme, enfin, il y a plein de jeux de ce type-là où on doit faire passer une boule dans différents endroits. Il y a des lasers, il y a des scies sauteuses, il y a des trucs comme ça. Et donc là, il faut faire passer le rouleau de papier toilette arriver au bout du niveau. Il faut le faire descendre, le faire tomber, sans se faire choper par les lasers, etc. Quel génie, les Japonais! Quel génie chez Nintendo de pouvoir de rendre possible une telle créativité! Franchement, je suis émerveillé.
J'ai deux remarques. La première, ils vont standardiser une taille de planche. C'est pas possible.
Écoute,
parce que selon la taille de ta planche, sans mauvais jeu de mots...
c'est ton cheat code. T'as une planche plus longue. Non, c'est... Ouais. C'est en fonction du design, tu vois, vu que la cave dans laquelle tu dois descendre, le tunnel en horizontal, non, vertical dans laquelle tu dois descendre, bah, tu peux avoir un truc plus grand, c'est pas grave, tu vas de toute façon descendre. Il faut pas que ce soit trop petit, mais si c'est plus grand, ça t'avantage
pas. Il vaut mieux qu'elle
soit
trop grande. Ouais, tout à fait. Et ma deuxième question, c'est, tu prends quel type de PQ? Du triple épaisseur, avec ou sans motif?
Vrai débat.
Voilà la question importante.
Je pense qu'il y a certains de tes collègues, Escarina, sur un autre lieu, un autre podcast, qui auraient beaucoup à dire là-dessus. Mais non, moi, ça me rappelle, sur Wii, pour rester chez Nintendo, ça me rappelle Let's Tap des équipes de... évidemment, son nom m'échappe au moment où j'ai besoin, du créateur originel de Sonic, qui en ce moment est en train de tremper dans le délire.
Ah merde, Kuji. Ah putain.
Oui, pas, bon, le nom. Ça nous reviendra. Aidez-nous dans le live. Donc, Yuji Naka, c'est ça, non?
Oui, Yuji Naka.
Ouais, je crois. Enfin, bref. Donc, ça me rappelle un peu, c'est un peu dans cet héritage-là. Et puis, c'est pas étonnant quand on voit les logiques de Nintendo. J'apprends pas grand-chose aux gens, je pense, sur le podcast. Type le Mario en réalité virtuelle qui utilisait des logiques comme ça un peu. Certes, en réalité augmentée, beaucoup plus cher, mais bref. Mais c'est marrant. Et moi, ce qui me perturbe le plus, au sens positif du terme, c'est pourquoi la nana a la tenue de Bruce Lee dans le jeu de la mort.
voilà. Avec même les nunchaku, parce que c'est un jeu qui est sérieux, tu vois, qui est vraiment...
Pour se mettre en condition.
Et c'est ça, exactement. Voilà. Je vous montre pas l'autre pub pour jeu où on voit le type qui est sur les toilettes et qui se rend compte qu'il n'y a pas de papier et qui tout à coup fait un visage digne de n'importe quelle publicité japonaise. C'est magnifique. Bon, je vous la montre un tout petit peu. Bon, ok, c'est fini les conneries, les jeux papier toilette.
Mais en vrai, on rigole, mais moi, je trouve que c'est hyper malin d'utiliser un objet du quotidien qui est à la disposition de tout le monde pour... Tu vois, c'est un rouleau de PQ, du coup, c'est un truc un peu ridicule, on est d'accord. Mais utiliser un objet du quotidien dans lequel tu viens mettre ton contrôleur pour un jeu, moi, en vrai, c'est...
Ah, mais je suis d'accord. Je suis d'accord, oui, j'en parle pas juste pour la blague aussi, parce que c'est une idée hyper originale et créative et tout. Maintenant, le jeu, ça va être quels autres objets du quotidien on va pouvoir utiliser avec son Joy-Con pour créer des mécaniques de gameplay intéressantes et différentes. Vous pouvez donner vos suggestions. Pardon ?
Le mixeur.
pour celles qui ont un petit peu trop de Joy-Con drift, vous pouvez lui finir sa vie avec un jeu de mixeur de Joy-Con. Imagine, on pourrait utiliser genre mettre le Joy-Con genre dans une souris de PC, et quand on déplace la souris du PC, ça contrôle un pointeur sur l'écran de la Switch, un truc comme ça, ça serait hyper intelligent, je trouve. Ça serait pas bête comme moyen de contrôle original.
Patrick est en train de faire une game jam en direct.
Exactement. Bon, plus sérieux maintenant, il y a eu l'annonce d'un jeu dont certains d'entre nous ont peut-être rêvé pendant de longues années. Est-ce que si je vous dis Tenkaichi Budokai, ça vous dit quelque chose? Que vous ayez regardé l'animé ou joué aux jeux vidéo, évidemment, ça vous évoque Dragon Ball et Dragon Ball Z en particulier. Tenkaichi Budokai, le premier du nom était sur Super NES, si je ne m'abuse, dans les années 90, et j'y ai passé des heures et des heures et des heures. C'était un jeu de combat. Il y en a eu plein, des jeux de combat. Oui, pardon ?
Je ne confonds pas avec l'hyperdimension, parce que de mémoire, le premier Tenkaichi, il est sorti sur PS2.
Ah bon ?
Ouais.
Tenkaichi Budokai. Ah merde, alors c'était quoi celui sur Super NES ? Bon sang.
Hyperdimension.
Il s'appelait pas Hyperdimension en japonais. Ah, on est à raison, PlayStation 2, c'était lequel sur Super NES ? Alors attendez, on va faire nos recherches en direct.
Sur Super NES, c'était Hyperdimension. Et avant ça, t'avais Budokai, tout court.
Mais est-ce qu'il s'appelait Hyperdimension en japonais ?
Les trois premiers s'appelaient Budokai pour les jeux de combat, parce qu'il y a une tétrapelletée de jeux Dragon Ball sur Super Nintendo, dont des RPG, etc. Mais les trois premiers, c'était Budokai tout court.
Ah, mais c'était peut-être Dragon Ball Z Super Butoden 93. C'est peut-être Super Butoden, alors. Ok, d'accord. Bon, bah du coup, ok, rien à foutre de Tenkaichi Budokai 4, là. En fait...
Non, mais le jeu pose un vrai souci. C'est par rapport à, comment ça s'appelle, évidemment, tout le monde a pensé à Dragon Ball FighterZ de Arc System Works, les devs de Guilty Gear, entre autres. Comment le jeu va se positionner ? Parce que visuellement, on sent clairement que le jeu va pas suivre. D'un point de vue mécanique, historiquement, c'est pas des jeux, les Tenkaichi, qui sont très très poussés. On est à la limite du papier-feuille-ciseau un peu poussé et compagnie. Donc c'est quoi la cible ? Autant le Kakarot là, qui est sorti en mode RPG avec ses différents DLC et compagnie, ça commence à être sympa, ils ont agrémenté le truc si on est fan. Autant celui-là, je me pose vraiment la question sur le marché, à part évidemment pour Bandai Namco de continuer de faire vivre la licence et de faire acheter les Yankees. Il n'y a pas de reproche, hein, c'est juste un constat. Mais voilà, bref.
Ah, je crois que, alors graphiquement, moi je le trouve pas plutôt beau. De ce qu'on a vu, hein. On a vu deux secondes du truc, hein. c'est surtout ça joue sur la nostalgie, mais je crois que clairement Dragon Ball FighterZ, enfin Fighters, s'adresse à des fans de jeux de combat, et c'est un petit peu compliqué de s'y mettre vraiment, enfin pas très compliqué, mais il y a une profondeur de jeu qui justement fait que c'est un vrai jeu de combat. Celui-là, je me demande si ça sera pas plus en mode c'est pour le fun et puis c'est encore plus spectaculaire parce qu'on a un truc qui est proche de l'animé en 3D avec des grosses explosions et des Genki-Dama et des trucs comme ça. Je sais pas. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que l'excitation de Twitter au moment de l'annonce était assez palpable, je trouve. Bon. Pour la suite, ok, il y a encore des trucs cool qui arrivent. Je ne vous cache pas que Tenkaichi, c'était ma grosse boulette. Enfin, ma grosse boulette, je veux dire, le truc dont je pensais que ça serait le gros truc. Mais, oula, pardon, je me fais du bruit dans les oreilles. Il y a quand même des choses comme, par exemple, le premier trailer de... c'est quoi ? The Mage Seeker, avec la date, l'action RPG de League of Legends, qui sort le 18 avril. Donc, ça arrive dans genre un mois. Et c'est un jeu qui est en gros un Diablo-like dans l'univers de de League of Legends, on a au moins un personnage, il y en aura peut-être d'autres. Et bon sang, moi, ça me parle, mais de ouf. Le gameplay, c'est très diable. En fait, ça me fait penser à Children of Morta. Et je ne sais pas si vous avez joué à Children of Morta ou si vous en avez entendu parler ces dernières années. C'est l'un des jeux sur lesquels j'ai pris le plus de plaisir ces dernières années. C'était tellement fun. Et là, on est alors graphiquement dans ce style-là, plus ou moins. Et mécaniquement, ça a l'air d'être un Diablo-like comme il y en a beaucoup. Mais il a l'air nerveux et il a l'air de fonctionner. Et c'est dans l'univers de League of Legends, avec lequel j'ai un petit peu de familiarité, pas énormément, mais quand je vois Damacia avec Lux qui est en train d'essayer de conforter le perso et tout ça, je connais pas le perso principal, mais bref, moi ça me parle, donc Mage Seeker, je l'attends avec impatience, ça sort le 18 avril. Est-ce que je vous ai convaincu ?
Grave. Alors moi, j'avais pas du tout fait le lien avec Children of Morta, mais t'as complètement raison, en fait. Ouais. C'est vrai que visuellement, ça fait vachement penser à ça. Je suis juste un peu dubitative sur l'appellation action RPG. Effectivement, moi, je suis plutôt comme toi, je suis plutôt fan de Diablo-like, c'est-à-dire beaucoup d'ennemis à l'écran et le côté un peu, on clique comme un bourrin, ça fait du feu partout et on tue les ennemis par centaines. Là, j'ai l'impression qu'on est quand même plus sur une expérience de type roguelike. J'ai l'impression qu'on est plus dans du combat de boss, il n'y a pas beaucoup d'ennemis à l'écran. C'est le genre d'expérience qui du coup me plaît un peu moins, et typiquement ouais. Children of Morta, c'est ça, il y a vraiment de la punitivité sur la mort. Ça se dit la punitivité ?
À partir de maintenant, ça se dit. Ouais, mais tu penses plus genre boss rush, genre Fury, ou c'est vrai qu'on ne voit pas beaucoup d'ennemis à l'écran. À un moment, il y en a deux, mais
généralement,
c'est plus du boss rush.
Peut-être pas à ce point-là, mais effectivement, vraiment plus une approche punitive de la mort avec un Children of Morta-like, on va dire.
Ouais, bon.
Après, on a peut-être moins d'ennemis parce que justement, le protagoniste est plutôt sur combat en contact, là où Children of Morta permettait d'aller au contact sur un peu plus de distance de magie. Donc je pense que là, vraiment, la volonté, c'est d'avoir ce perso qui a cette spé-là, quoi.
C'est possible.
Alors moi, je connais très mal le lore de League of Legends. C'est un personnage connu.
Ouais, comment il s'appelle, Solas ? En fait, il n'est pas dans Wild Rift, donc je ne le connais pas, mais oui, c'est un personnage connu. Et j'espère qu'il y aura d'autres persos de League of Legends qu'on pourra jouer et que ça ne sera pas juste lui. Enfin, peut-être que ça sera très bien aussi, mais si on peut jouer Lux, par exemple, qui était mon main sur Wild Rift, je serai complètement aux anges. Et elle, c'est une mage à distance complètement. Bon, bref, on verra. Ça arrive très bientôt. Hein. J'ai l'impression que les jeux de Riot Forge, qui sont donc les jeux que Riot, pour lesquels Riot licencie son IP à d'autres studios, en gros, j'ai l'impression, hein, je ne sais pas si c'est exactement comme ça, mais les devs ont des jeux qu'ils ont aimés, ils vont voir le studio en question et ils leur disent « Vous pouvez nous faire le même, mais dans l'univers de League of Legends ». En l'occurrence, c'est Digital Sun qui a fait Moonlighter, que je ne connaissais pas.
J'adore Moonlighter, c'est trop bien.
Ah bah je t'ai vendu.
Voilà, tu m'as vendu le truc à fond. Moonlighter, c'est un petit jeu où c'est à la fois un jeu de gestion de boutique et un jeu du dungeon crawling. Et donc du coup tu vas dans les donjons, tu tues les monstres, tu récoltes des objets et des ressources que tu vas vendre dans ta boutique. Donc t'as un petit mélange comme ça, c'est trop bien Moonlighter, il faut y jouer.
Écoute, il sera celui-là, il sera dispo partout, sur toutes les consoles et toutes les plateformes. Donc, vous pourrez le tester par vous-même le 13 avril. C'est juste avant l'avalanche infernale, interminable du mois d'avril et de mai. Et, enfin, de mai et de juin surtout. Donc, ça vous laisse un petit peu de temps pour le sortir. Peut-être pour le jouer, pour y jouer. Peut-être qu'ils se sont dit, ouais, on ne va pas essayer de se battre contre... les Legend of Zelda, Tears of the Kingdom et autres Diablo 4. On va sortir avant, ça va se faire plus facilement. Quoi d'autre aussi les annonces... Non, d'abord la date de Starfield, qui eux aussi ils se sont dit on va pas essayer de se battre contre les Diablo 4 et les Street Fighter 6, encore que Street Fighter 6 c'est plus niche, et les Zelda, et on va sortir le 6 septembre 2023, donc ils se positionnent sur la rentrée, et je dois dire que la vidéo, qui est vraiment une vidéo d'ambiance, hein, on a très très peu de gameplay, Mais je dois dire que cette vidéo m'a bien donné envie. C'est très mystérieux, il y a des mystères dans l'univers, différentes planètes, des graphismes, comment dire, des visuels, genre très science-fiction, hard sci-fi. Et moi, ça m'a beaucoup parlé. Et du coup, je suis un petit peu plus excité de voir ce que va donner le jeu. Il y aura un, comment ils appellent ça, le Starfield Direct, le 11 juin, autour de l'E3, au moment où le Xbox Direct de cette période aura lieu, c'est juste après, donc on en saura plus à ce moment, mais il arrive le 6 septembre, donc il a été un petit peu décalé, il était censé arriver les 6 premiers mois de l'année, finalement ça sera un petit peu plus tard, donc moi je pense que c'est possible, ça leur laisse plus de temps pour finir, mais c'est possiblement surtout pour Get Out of the Way of Zelda et tous les autres jeux de ce moment-là. Mais voilà, donc...
Je suis trop contente d'avoir la date, c'est peut-être le jeu que j'attends le plus cette année. Par contre, je suis d'avance très triste parce que je pense qu'il ne tournera pas sur mon PC. Voilà.
Peut-être, oui, c'est possible. Mais ça sera l'occasion. Écoute, peut-être que tu recevras une photo de la part de ton mari le jour de la sortie.
Alors ça, tu vois, j'y crois beaucoup moins.
Non, mais t'as le stream. Il sera en cloud, en streaming. T'es abonné tu vois,
t'es abonné, ouais, au Game Pass. Okay. Ben, pas en ce moment, mais s'il faut se réabonner pour le y jouer en streaming, effectivement, je pense que je vais pas me poser la question très longtemps.
C'est le jeu que t'attends le plus. Et, ouais. Écoute.
Ça vaut le coup, je pense. Hein.
On va essayer de trouver le numéro de téléphone de ton mari et lui envoyer quelques suggestions. D'ici septembre, il a le temps de faire quelques économies. Donc,
Oui.
Et puis, une série S, ça coûte pas si cher. C'est moins cher qu'un PlayStation VR 2, tu vois.
Donc, ouais, mais je ne reprendrai pas une console. Je suis désolé de te décevoir. Mais...
D'accord. Bon, une carte graphique, alors. Peut-être que ça ira. C'est sûr que si tu dois changer tout ton PC, là, ça là, devient un petit peu plus...
J'en suis à un stade où je pense que c'est au niveau du PC. Non, mais la solution du streaming, c'est très bien. Ça me va très bien. En plus, on est sous la fibre, donc parfait.
Je contribue à la paix des ménages. Très bien. et enfin, les annonces de Paradox dans leur Paradox Interactive Direct, où ils ont annoncé plusieurs choses. Alors, la plus grosse annonce, c'était Cities Skylines 2, qui devrait arriver, je ne sais plus quand. Ils n'ont pas donné de date, je crois. Mais il y avait aussi The Lamplighters League, qui est un jeu de stratégie au tour par tour. En gros, c'est XCOM, mais dans l'univers de... alors, dans un truc qui ressemble un petit peu à Indiana Jones, c'est les années 30 et on explore des pyramides et des tombeaux en Égypte. Et c'est donc du tour par tour, comme je disais, un petit peu à la XCOM. Il y a quoi d'autre ? Il y a aussi Life by You, qui est un Sims-like de Paradox, Paradox Tectonique spécifiquement, et il arrive très bientôt, il arrive, je me trompe pas, hein. Non pardon, il y a une autre vidéo plus en détail qui arrive le 20 mars, donc dans quelques jours, ça on l'a pas encore, Lamplighters League ça arrive en 2023, et Cities Skylines 2 arrive en 2023 également. Donc, voilà les annonces de Paradox. Il y en a quelques autres, mais que vous pouvez évoquer.
Je suis quand même super étonnée qu'il y ait... Alors, OK, c'est Paradox, mais qu'il y ait encore des boîtes qui se mettent sur le créneau du live sim. Enfin, quand tu vois ce qu'il y a en face, je suis curieuse de... Alors, moins ces dernières années, parce que malheureusement, depuis, j'ai un travail et une fille de famille, donc j'ai moins le temps de jouer. Mais à une époque, je passais ma vie littéralement sur les Sims. Et du coup, je suis vraiment curieuse de voir ce que ça va donner, quoi. Mais je suis assez surprise qu'il y en ait qui tentent le truc, quoi. Je me demande ce qu'ils vont pouvoir apporter de plus. Je suis curieuse.
Il faut avouer que les Sims, ça fait un moment qu'ils sont sur la place. Il y a le prochain, le 5, qui est en développement. Et ils ont 1 million d'extensions. Moi, je me demande s'il n'y a pas effectivement une approche différente à tenter. Parce que quand tu n'as qu'un acteur, mais, ouais. Ben, forcément, il est dominant. Mais peut-être qu'il y a autre chose à faire avec ce style de jeu. Bon, moi, je ne suis pas hyper client, donc ça me parle moins. Mais il y a la place pour deux... Je ne sais pas, c'est tellement spécifique. Écoute, il y a bien la place pour 3 Battle Royale qui ont du succès en même temps. Pourquoi pas pour 2 Life Sim ?
Ouais, mais là, on parle quand même d'une licence qui a, plus de 20 ans d'existence.
Ouais,
bah. Et qui a fait ses preuves à tous les niveaux. Alors, je dis pas, je suis juste vraiment très curieuse de voir ce qu'ils vont pouvoir apporter de plus, quoi.
Mehdi, t'y crois ? Le succès pour Life by
You ? Oui, je suis assez d'accord. Je pense sur la logique d'arriver à avoir une autre approche. Ça sera sûrement long, et voire même, je pense, ça lancera une autre branche des Sims, mais pourquoi pas ? Moi, je suis curieux.
À tenter.
Après, j'ai l'impression qu'ils sont sur une vision un peu moins déjantée. Les Sims, c'est vraiment... Enfin, voilà, ils jouent vraiment sur plein de tableaux, et c'est pas sérieux, entre guillemets. Enfin, tu vois, il y a des fantômes, tu peux vraiment faire...
Enfermer ton sim dans sa maison sans toilette et le faire mourir de
voilà. Et par exemple, je pense pas que ce soit une approche du jeu Paradox.
Ça a l'air.
Non, mais j'ai l'impression qu'ils sont sur un créneau plus sérieux, entre guillemets.
Possible, oui. En tout cas, les quelques secondes de construction de maison qu'on voit, ça a l'air effectivement très complexe et bon, pas réaliste, mais semi-réaliste peut-être. Bon, à voir le 20 mars. Et donc, Cities Skyline, gros succès, justement. Bah, tu vois, c'est un bel exemple. SimCity était un petit peu, bon, pas tout à fait seul sur ce créneau, mais Cities Skyline est arrivé avec une vision assez rafraîchissante. Et du coup, il a connu son petit succès. Et c'est un petit peu pour ça qu'ils se disent, enfin, c'est peut-être un peu pour ça qu'ils se disent, bon, bah, on va tenter la même chose avec les Sims sous cours, quoi.
Alors, je suis complètement d'accord avec toi. Ceci dit, je pense quand même qu'il y a un peu plus de compétitivité dans le domaine des city builders. Et je pense que Cities Skylines, c'est arrivé à un moment où la franchise SimCity était en train de décliner et qu'ils ont apporté ce vent de fraîcheur. Aujourd'hui, j'ai pas l'impression que les Sims soient sur le déclin, même si on en entend moins parler parce qu'ils sont sur la fin de vie de leur cycle et qu'ils vont effectivement bientôt passer sur la next-gen. Mais déjà, il y a ça, et surtout le fait qu'ils sont vraiment seuls, quoi. C'est eux qui ont créé le genre et ils sont seuls sur le marché. Si on oublie les life machins là dont on parlait tout à l'heure, les vieux MMO. Donc
ouais, les Second Life. D'ailleurs, le type qui est sur Life by You était sur Rod Humble. Il était sur Second Life aussi. Il a travaillé sur les Sims et sur Second Life. Donc tu vois peut-être que bon, on verra.
Let's see.
Ouais, en tout cas, j'ai entendu beaucoup. Beaucoup de gens parlaient de The Lamplighters, dont l'univers a l'air assez intéressant, mais quand on tombe sur XCOM, moi, ça m'intéresse moins. Mais ça a l'air de pas mal exciter les gens. Et il faut avouer que c'est un design qui est plutôt cool, je trouve. Lamplighters League.
Ouais, la DA, elle a l'air très chouette.
Ouais, ouais. C'est mi-comique, mi-comique, animé, avec la patine des années 30, ça fonctionne.
Il y a un jeu qui est sorti il y a un an ou deux. Alors, c'était en pixel art et je ne me rappelle plus son nom, mais je suis sûre que le chat s'en rappellera. C'était le même type d'univers. C'était un peu les aventuriers de l'Arche perdue. Et tu avais une troupe d'aventuriers, un jeu tactique. Ça vous parle ou pas ? Où on devait aller fouiller des tombeaux
Moi, je pensais à Torchlight, mais c'est pas...
Non, c'est pas Torchlight. C'était un jeu tour par tour, vraiment le même type de gameplay que là. Il y avait des monstres aussi, il y avait des momies, des choses comme ça. Non, ça vous parle
je
pas,
l'ai sur le bout de la langue, mais non, ouais, enfin, sur le bout du cerveau, et j'y arrive pas.
Et du coup, ça me fait un petit peu penser à ce type d'univers-là. Effectivement, c'est pas très représenté, et ça fait toujours... Il y a vraiment une vibe Indiana Jones... Ouais. Je pense qu'on est nombreux à apprécier, quoi.
Du coup, c'est tout pour les grosses annonces de jeux incroyables que j'ai toutes réunies dans une même section de l'émission. Ça fait une belle première partie, mais elle n'est pas terminée, puisqu'il y a aussi... C'est Pathway, c'est ça ? C'est Pathway.
Je me suis mutée, pardon, mais oui, c'est complètement Pathway. Et merci à la personne qui nous a rafraîchi la mémoire.
On a aussi le feuilleton sur lequel on va passer un peu plus rapidement, mais on a le feuilleton Activision Blizzard qui continue, Microsoft, avec, on commence à arriver au moment où on jump the shark, quoi. Dans la série, vous savez, il y a ce moment où ça commence à, au bout de la troisième saison, où tu te dis, là, ils ont perdu le sens des réalités, ça commence à devenir un petit peu n'importe quoi. On arrive à cette étape, dans les allers-retours entre les autorités de la concurrence et Sony et Microsoft. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que il a été révélé que dans des communications à la CMA, donc l'autorité anglaise, Sony aurait continué à à être préoccupé par le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft pour d'autres raisons aujourd'hui que le simple fait que Microsoft pourrait décider de retirer Call of Duty de la plateforme de Sony, ce qu'il disait depuis un moment. Il disait si on perd Call of Duty, ça met en danger notre position dans le jeu vidéo, c'est une influence injuste que pourrait avoir Microsoft, etc. Bon, au-delà de cet argument, ce qu'il commence à dire maintenant, c'est que puisque Microsoft a donné des deals de 10 ans pour garantir la présence de Call of Duty sur Switch, d'ailleurs, il détaille comment il le ferait. En gros, ils disent on peut gérer un moteur. Il y en a qui tournent sur téléphone, il y en a qui tel et tel truc. Vous inquiétez pas, ça sera le vrai Call of Duty sur Switch. Donc, sur Switch, sur Steam, sur Nvidia GeForce Now. Donc, ils ont montré qu'ils étaient prêts à mettre Call of Duty partout et ils ont proposé le deal à Sony aussi. Sony n'en a pas voulu. Et ce qu'ils disent maintenant, c'est que ils donnent des exemples. Ils disent, par exemple, Microsoft pourrait, pour nuire à Sony, publier une version de Call of Duty où il y aurait des bugs et des erreurs qui n'arrivent qu'au dernier niveau du jeu, ou alors après des updates du jeu au bout de quelques semaines ou quelques mois, et que, à ce moment, les joueurs perdraient confiance dans PlayStation comme la plateforme pour Call of Duty, et qui ensuite délaisserait PlayStation et arrêterait d'utiliser la console, ou peut-être même ne choisirait pas d'acheter la console ou la revendrait, pour aller sur Xbox. Et donc, les joueurs de Call of Duty pourraient décider, à cause de ce sabotage de Microsoft de la version Call of Duty sur PlayStation, d'aller jouer sur Xbox. On nage dans un délire qui
conspirationniste.
Est à peine descriptible, quoi.
Ouais,
le truc, c'est que je pense que la plupart des gens ont été assez choqués de ces exemples que donne Sony. On le rappelle, hein, c'est Sony qui parle aux autorités de la concurrence en Angleterre et qui leur dit voilà pourquoi il faudrait bloquer le rachat de Activision Blizzard par Microsoft, parce que Microsoft, qui mettrait spécifiquement la main sur Call of Duty en plus de tout le reste, pourrait faire des versions volontairement buggées de Call of Duty, mais pas tout de suite, hein, à la fin du jeu, ou avec des updates au bout de 3 semaines, pour faire perdre confiance aux joueurs PlayStation, à la plateforme PlayStation, et que ces joueurs-là se disent « Call of Duty marche pas bien sur PlayStation, c'est de la faute de Sony », ils pensent pas du tout que ça va être la faute de Microsoft, c'est de la faute de Sony, et donc on déteste Sony maintenant, et on va revendre nos PlayStation et aller jouer sur Xbox.
Par contre,
vas-y, Mehdi.
Je suis très curieux de savoir si effectivement il y a vraiment ça passe au pénal. Quels vont être les précédents qui vont être créés, parce que ça va devenir un feuilleton complètement dingue s'il y a effectivement les spéculations sont vraiment fondées. Ça m'intéresserait beaucoup. Là, on sortait d'une discussion sur une conférence avec une personne qui disait déjà dans le droit sur le jeu vidéo en France ça évoluait pas beaucoup, mais alors là, ça aurait des proportions complètement Netflixienne, quoi.
Bah, le truc, c'est que sur ce genre de théorie conspirationniste sortie du chapeau, on peut toujours se dire « Ah oui, mais attends, mais si c'est vrai, mais s'ils le font vraiment ?» Tu sais, c'est la technique de Trump, en fait. Tu sors un truc qui n'a aucun sens, qui ne tiendrait évidemment pas, enfin, ne serait-ce que qui on va blâmer s'il y a un problème comme ça. On l'a bien vu avec Cyberpunk, personne n'a dit « C'est de la faute de Sony et Microsoft si Cyberpunk tourne pas sur leur console ». Tout le monde s'est retourné sur CD Projekt. Donc, bon, ça n'a aucun sens. Mais peu importe, tu lances le truc. Puis après, il y a des gens qui vont dire « Ah oui, mais attends, mais si c'est vrai, mais qu'est-ce qui se passe si c'est vrai, qu'est-ce qu'on va faire ?» Et en l'occurrence, évidemment que ça n'a pas de sens. On pourrait dire Microsoft peut abuser de, je sais pas moi, la position de Windows pour essayer de mettre en avant les jeux de Microsoft, plus qu'ils ne le font aujourd'hui. Alors, quoi, ça touche Call of Duty spécifiquement, j'en sais rien. Mais ça, c'est des préoccupations qu'on peut éventuellement avoir. Mais c'est pas ce que dit Sony. Spécifiquement, Sony dit Microsoft pourrait introduire des bugs, genre au bout de 3 semaines ou à la fin du niveau, comme ça on s'en rend pas compte tout de suite, à la fin du jeu, comme ça on s'en rend pas compte tout de suite, pour faire perdre confiance en Sony. Donc, mais il y a des gens d'ailleurs, il y a la comment elle s'appelle, je me souviens plus de son nom, la responsable de la communication chez Activision, qui elle aussi y va un petit peu fort, Lulu Cheng, qui dit le président de Sony, Jim Ryan, de Sony Interactive Entertainment, lui a dit personnellement, je ne veux pas de ton deal Call of Duty, je veux juste bloquer ton acquisition. Alors, elle n'a pas de preuves, mais elle le dit publiquement, c'est un petit peu dangereux de dire ce genre de choses. Si ce n'est pas vrai, il disait que c'était devant la commission à Bruxelles. Alors, ça devient un petit peu n'importe quoi, mais la réalité derrière ça, même si c'est choquant, c'est que Sony, ils font tout ce qu'ils peuvent pour essayer de bloquer ou compliquer le deal, et c'est normal, ils sont dans leur position de dominant, c'est eux qui ont la plus grosse part de marché, si on considère ce marché entre Sony et Microsoft, et de loin, et ils essayent de rendre des choses plus difficiles pour Microsoft, ce qui est un petit peu normal. D'ailleurs, les choses sont plus difficiles pour Microsoft parce que Sony a fait tellement de bruit autour de ça. Les deals n'auraient sans doute pas existé sous cette forme si Sony n'avait pas fait tout ce ramdam. Aujourd'hui, Microsoft, Sony, ils s'en foutent d'avoir le deal ou pas. Microsoft ne peut plus faire quelque chose de ce style-là ou ne plus mettre Call of Duty sur PlayStation pour les 10-20 prochaines années. Ils ne peuvent plus. Avant, il y aurait eu moyen de moyenner. Maintenant, il y a eu tellement de bruit autour de ça. Deal ou pas deal, Microsoft, ils ne peuvent plus ne pas le mettre sur Sony et ne pas le traiter comme le jeu premium qu'il a toujours été. Et du coup, Sony gagne dans cette affaire. Et certains disent « Ah, mais ça y est, ils se tirent dans les pattes, les relations entre les boîtes vont être ternies, machin. » Alors oui, il y aura peut-être un petit peu de ressentiment, mais il ne faut pas se leurrer. Hein. Quand le truc sera approuvé, s'il est approuvé, ou même s'il n'est pas approuvé, bah, le business va reprendre comme d'ailleurs il ne s'est jamais arrêté. Tout ça, c'est de la communication. Les avocats de Sony font tout ce qu'ils peuvent pour avoir le meilleure conclusion possible pour eux, pour leur boîte pour laquelle ils travaillent dans cette affaire. Mais au final, Sony va continuer à avoir Call of Duty sur la console. Ils vont continuer à bosser avec Activision et Blizzard et tout le monde autant qu'ils peuvent. C'est comme Samsung qui fait des tacles à Apple dans leur pub pour les Galaxy et qui ensuite va leur vendre des puces de mémoire pour construire leurs iPhones. Bah, c'est, tu vois, quand il y a de l'argent à se faire, tout le monde est ami. Donc, en l'occurrence, ça ne remet en aucun cas en danger leur collaboration sur les jeux, quoi.
C'est le calomnié, il en restera toujours quelque chose, quoi.
Bah, un petit peu, oui. Mais il n'empêche, je vous avoue que ça aille à ce niveau de n'importe quoi, je suis quand même surpris. Le fait que Sony aille dire ils vont volontairement faire une version buggée de Call of Duty pour... Enfin, c'est... Mon mind est un petit peu blown que ça aille à ce niveau, quoi. On aura les conclusions des deux autorités en Europe, donc la CMA en Angleterre et l'autorité européenne de l'UE, vers le 20-21 avril, je crois, ou 22, enfin, vers fin avril. Donc on aura la conclusion là. Il restera que la FTC, pour ceux qui se posent les questions, cette question. Il restera la FTC, donc l'autorité américaine, qui n'aura pas encore rendu son jugement. Et le jugement peut arriver beaucoup plus tard. Et le truc, c'est que le contrat entre Activision et Microsoft court jusqu'en juillet. Et en juillet, la FTC n'aura a priori, on ne sait pas, hein, peut-être qu'ils vont abandonner leur volonté de blocage. Peut-être qu'ils vont le tourner en disant on a obtenu des deals pour avoir Call of Duty partout. Donc, bon, on a fait plier Microsoft. Peut-être qu'ils tourneront comme ça et qu'ils diront bon, donc on arrête notre blocage administratif. Mais le blocage n'est pas contraignant. Ce qui veut dire que même sans l'avis de la FTC, Microsoft pourrait compléter le deal avant son terme en juillet et ensuite voir ce qui se passe avec la FTC. Si finalement la FTC réussit à faire un jugement, à faire juger le deal, à bloquer le deal, il faudrait du coup détricoter le truc. Bon, on ne sait pas comment ça se passerait, mais si la FTC n'abandonne pas, Microsoft va peut-être devoir jouer au poker en juillet pour décider de compléter le deal ou pas. Et s'ils ne le complètent pas, ils doivent payer des grosses amendes, des grosses indemnités à Activision Blizzard.
Ouais, ça craint.
Ah, les pauvres, franchement.
Ouais, non, mais...
C'est marrant parce que...
Non, mais moi, je me mets aussi à la place de tous les employés qui se projetaient sur ce rachat. Ça, oui. Qui était quand même plutôt bien vu, je pense, de la part de l'opinion publique, on va dire de la part des gens que ça concerne vraiment, et nous les gamers, enfin en grande partie, je schématise un peu en disant ça, mais et je me mets à leur place, ça c'est dur quoi, je pense que c'est dur.
Ça c'est certain, mais oui, mais c'est une autre affaire. Pour les employés, et surtout les employés d'Activision Blizzard, je crois que tous espèrent qu'ils vont passer sous le joug de Microsoft plutôt que celui de Bobby Kotick. Mais bon, c'est une autre affaire. Oui.
Juste une très courte note, tu as parlé des mécanismes du complotisme très rapidement, tu les as évoqués très rapidement, je trouve que c'est un sujet qui est hyper intéressant. J'ai lu une petite BD de la petite BD Tech des Savoirs qui s'appelle Crédulité et Rumeurs et qui explique très bien les mécanismes du complotisme, des fake news, pourquoi, enfin comment est-ce qu'on réussit à se faire, ou des gens réussissent à se faire un peu brainfucker par ça. Je vous le recommande, Crédulité et Rumeurs, c'est vraiment super intéressant.
Crédulité et rumeurs, ça se trouve où? C'est quoi? C'est un article?
C'est une petite BD d'une série qui s'appelle La Petite BD Tech des Savoirs. C'est le 24e tome. Et en fait, c'est des petites BD de vulgarisation sur des sujets. Alors, ils en ont fait un, par exemple, sur la musique métal. Et donc, en
cinquantaine c'est important de pas se faire piéger par la musique métal, on est
d'accord. Voilà, ça retrace l'histoire de la musique métal, d'où ça vient, etc. Bon, et là, ça parle du complotisme, comment les bulles d'informations sur les réseaux sociaux, comment est-ce que des gens peuvent réussir à croire que la planète est plate, tu vois, des choses comme ça. Et c'est vraiment super intéressant, je vous le recommande, c'est rapide à lire et très bien vulgarisé.
Super.
La vraie question, c'est est-ce qu'il va y avoir plus de réactions sur celui sur le métal ou sur le complot?
je pense que le métal a un petit peu plus de portée, clairement. Et juste pour répondre à certaines personnes qui disent des choses dans la chatroom, oui, mais Microsoft pourrait faire ceci ou cela, etc. Oui, il y a toujours la possibilité que Microsoft filoute. Et on en parlait d'ailleurs dans le rendez-vous tech cette semaine. Ils filoutent avec leur navigateur Edge et Bing, le nouveau moteur de recherche, etc. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et il faut y faire attention. Et le résultat, une partie du résultat de tout ce bruit qu'a fait Sony notamment, c'est que Microsoft aura beaucoup plus de mal à filouter avec Call of Duty. Mais ce n'est pas ça qu'ils disent, Sony, encore une fois. Et je ne vais pas le répéter pour la 15e fois, mais... C'est pas ça qu'ils disent. Ils parlent de sabotage intentionnel caché, genre « Ouais, c'est dans une update plus future, etc. » C'est pas tout à fait la même chose. Hein. On est clairement dans une situation différente. Bref, voilà pour les news à retenir cette semaine. J'aimerais vous parler d'une autre news extrêmement importante. Saviez-vous que depuis quelque temps, pas très longtemps, vous pouvez... soutenir le rendez-vous jeu sur Patreon. Et oui, c'est une nouvelle technologie absolument incroyable. Vous allez sur patreon.com/rdvjeu et vous décidez de donner quelques euros par épisode, 1, 2, 3, vous choisissez ce que vous voulez, et vous êtes automatiquement débité à la fin du mois. Et de cette manière, non seulement vous avez un flux privé dans lequel il y a des contenus bonus, dans lequel il y a il n'y a pas de pub du tout, dans lequel vous avez aussi des time codes dans les émissions pour passer les sujets qui vous intéressent pas. Mais en plus, on dit qu'on ne peut pas s'acheter une conscience. Est-ce vrai? Moi, je pose la question. Je pense qu'avec quelques euros par mois au rendez-vous jeu, on se sent quand même un peu plus léger quoi qu'on fasse par ailleurs dans sa vie. Alors quoi qu'on fasse. Je ne sais pas. Mais en tout cas, on se sent mieux. Et on se sent vraiment comme quelqu'un de plus honorable, de plus sérieux, et on a la satisfaction de soutenir un créateur de contenu qu'on apprécie. Donc patreon.com/rdvjeux, quand vous arrivez chez vous, vous avez le vide-poche, le petit bol, ça fait cling, et là vous dites « Oh merde, j'ai oublié de me sentir mieux. Que dois-je faire ?» Je dois aller sur patreon.com/rdvjeux pour soutenir Patrick. Merci à vous tous et à vous toutes.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et on continue avec les jeux auxquels on joue en ce moment, avec cette petite musique sympatoche. La qualité se paye, me dit-on. Alors, est-ce qu'on peut dire que cette émission est une émission de qualité? Je vous en laisse juge. On va peut-être commencer par, je sais pas, Escarina, honneur aux dames.
Je pense que l'audience ne tient plus à l'idée d'avoir cette anecdote.
Alors, dis-nous tout. Quelle est cette photo que tu as reçue de ton mari au milieu de la journée qui t'a choqué?
J'ai reçu une photo sans consentement mutuel, je tiens à le préciser. Donc, ma journée se passait terriblement normalement. Et là, je reçois effectivement cette photo de l'écran d'installation de Horizon Call of the Mountain de la part de mon mari. Donc là, immédiatement, je comprends que c'est une photo qui provient de mon salon et que sans rien me dire, il a commandé le PSVR 2. Donc, j'avoue que j'étais un peu surprise. Je m'attendais à beaucoup de choses, mais pas à ça. J'ai remercié le ciel de être en conjoint avec mon mari.
Ah oui, parce qu'en plus, c'était vraiment lui qui a économisé ses petits sous pour te faire plaisir, toi, bien sûr.
Il se l'est surtout acheté pour lui. Ah oui, mais bien évidemment, c'est comme quand moi, je lui ai offert la PS5 en cadeau d'anniversaire. Mm-hmm. Tu vois, c'était pas dupe. Il écoute pas cette émission, donc je m'en fous, tu vois, je peux le dire.
Il savait bien que c'était pas que pour lui.
Non, c'était pas que pour lui. Oh, regarde, je t'offre cette console et ce jeu auquel j'ai terriblement envie de jouer. Bien évidemment, tu vas me prêter parce que t'es très sympa. Donc, il l'a surtout acheté pour lui. Moi, je te l'avais dit, c'était probablement le premier device VR qui m'intéressait vraiment par les différentes fonctionnalités qu'il proposait, dont on a déjà parlé à plusieurs reprises dans cette émission. Mais 650 €, moi, je ne me voyais pas les mettre. Pour moi, c'était inabordable. Enfin, en tout cas, moi, je ne me vois pas mettre ce prix-là. Ce qui, en fait, à la réflexion, et vu que je ne l'ai pas payé, c'est facile de dire ça maintenant, aujourd'hui, a priori, ça reste quand même un très bon rapport qualité-prix quand on le compare au paysage de la VR aujourd'hui.
Ouais. Ah bah c'est sûr que quand c'est pas toi qui le paye, le rapport qualité-prix, il est imbattable.
Ah bah, du coup, pour moi, il a coûté zéro. Après, j'ai envie de te dire, vu tous les jeux que j'achète sur cette console, bon, je pense que j'ai dépassé le montant du PSVR depuis qu'on a la console, mais c'est un autre sujet.
Ouais.
Et donc, du coup, moi, je découvre complètement la VR. J'ai eu quelques expériences par le passé, mais vraiment très anecdotiques. Et c'est la première fois que j'ai un vrai casque de VR gaming à la maison. J'ai eu une première expérience qui a été assez désagréable parce que on était en fin de journée, j'étais fatiguée et surtout en fait je m'en suis rendu compte sur ma deuxième expérience, j'avais mal réglé le casque, je pense vraiment par manque d'expérience, ce qui fait que je voyais trouble. J'ai fait le choix de jouer assis, donc je me suis payé une cinétose de malade. Aïe. Et en fait au bout de 10 minutes de jeu où j'ai vu un dinosaure me sauter dessus et j'ai fait un jump dans mon canapé, je me suis dit bon ok, je vais reposer le casque et j'y reviendrai plus tard. Heureusement, la deuxième expérience fut bien plus positive. Donc là, j'ai pris le temps, je me suis mise debout, j'étais reposée, c'était un week-end. J'ai pris le temps de bien régler le casque. Alors, surprise, ça change tout une fois que le casque est bien réglé.
Incroyable.
Vous apprendrez rien. Le fait que je sois debout, alors j'ai pas du tout eu d'expérience de cinétose sur ma deuxième session. Est-ce que c'est parce que j'étais moins fatiguée, est-ce que c'est parce que j'étais debout, ou est-ce que c'était parce que le casque était bien réglé, ou est-ce que c'était ces trois choses-là? Je pense que c'est un mélange de ces trois choses-là. Et bah du coup j'ai adoré en fait, j'ai pas vu passer, j'ai joué 2 heures sans m'arrêter.
Ah ouais ?
Déjà, ouais.
À Call of the Mountain, déjà, hein, on est d'accord ?
À Call of the Mountain. Alors moi ce que j'aime beaucoup, c'est que déjà t'as pas besoin d'espace pour jouer, même debout. J'ai joué sur un coin de tapis, j'ai pas bougé, j'ai bougé aucun meuble de mon salon, ou mon salon qui est pas non plus énorme. Donc déjà ça c'est un gros point positif. L'autre c'est que t'as quasiment pas de fil, t'as juste le câble qui raccorde ton casque à la console, c'est tout. Et le casque est...
Vu les blocs de l'enfer qu'il y avait sur le premier.
Ouais, sur le PSVR. Alors ouais, bah, j'ai un ami en commun, la CRL, qui lui un fervent défenseur du PSVR, mais qui admettait de lui-même que la gestion des câbles, c'était vraiment un cauchemar. Donc là, effectivement, c'est vraiment un gros bond en avant par rapport à ça sur le PSVR 2. Et surtout, ce casque, il est imposant de premier abord. En fait, t'as l'impression de te mettre un truc énorme sur le crâne. Et en fait, une fois posé, il est ultra léger. Il est vraiment très agréable à porter. Moi, les 2 heures de jeu que j'ai faites, alors que je porte des lunettes, je pense que c'est important de le préciser, j'ai vraiment ressenti aucune gêne. Et en plus de ça, il y a une espèce de jupe un peu siliconée donc autour des lunettes, quoi. Ce qui fait que ça épouse vraiment la forme de ton visage et t'es vraiment dans le noir complet. Donc, t'es hyper immergé et tu ne vois pas du tout la lumière extérieure. Pro tips, cependant, tu as un petit bouton sur le casque qui te permet à tout moment de retourner en mode caméra, c'est-à-dire qu'en fait, ça active les caméras externes qui sont sur le casque et donc en fait, tu vois ce qu'il y a autour de toi. Il y a beaucoup de gens, a priori, qui se plaignaient du côté bulle du casque qui faisait que c'était toujours un peu galère. Dès que tu mets un casque VR, tu es complètement coupé du monde et bah, si c'est truc tout con, tu cherches tes manettes, tu es obligé de retirer le casque et de le remettre pour les trouver. Bah, là, tu appuies sur ce bouton, tu vois tout autour de toi et tu peux, bah, du coup, gripper tes manettes sans aucun problème, quoi. Donc
dans l'Oculus, quoi.
Oui, alors incapable de comparer, malheureusement, donc tu fais bien de le dire. Je savais pas qu'il y avait.
Ouais, non, je précise. Et sur ce que tu as dit aussi en termes jargon technique, ils ont travaillé en optique ce qu'on appelle la distance interpupillaire, donc c'est-à-dire grosso modo qui permet ce réajustement qui fait que bah, tu es beaucoup plus confort une fois que le setup est correctement fait.
Oui, et il y a aussi une feature de eye tracking qui fait que du coup, tu as un espèce de flou périphérique à la vision qui n'est pas du tout gênant, puisque dans la vraie vie aussi, vous avez ce flou périphérique. Je vais peut-être vous mindfuck parce que maintenant, vous êtes en train de vérifier chez vous que vous avez ce flou périphérique et vous êtes en train de vous dire « Mon Dieu, j'avais jamais remarqué !» Donc, c'est très naturel et apparemment, ça joue aussi par rapport à la qualité graphique qui peut être proposée.
Bah oui, c'est-à-dire qu'il calcule avec moins de précision ceux que vous ne regardez pas directement, en fait. Mais du coup, l'expérience avec le casque lui-même est clairement bonne. Après, si on n'est pas fatigué et qu'on le règle bien, c'est un détail important. Mais le jeu Horizon Call of the Mountain, j'imagine que vous en avez peut-être d'autres, mais celui-là spécifiquement, il est bien, il est comment ?
Alors pour l'instant, on n'a que celui-là. Moi, mon mari a aussi fait la démo de Lego, de Star Wars.
Vous avez que Call of the Mountain ? Ça fait cher pour l'instant, le jeu, hein ?
Mais c'est pas moi qui l'ai payé, donc ça me va. Non, je prévois d'acheter d'autres jeux, mais j'attendrai des soldes parce que
Astrobot est très bien.
Mais il n'est pas dispo, ouais. Il n'est pas compatible. Il est sur PSVR 1, Astrobot. Il est super. Mais
ils n'ont pas fait une rétrocompatibilité sur le
VR2 ? Ah bah non ! C'est l'un des gros soucis, oui.
Je pense qu'il y a ce souci-là et l'autre souci, alors ce sera peut-être corrigé plus tard, mais a priori, il n'y a pas de jeu PSVR2 sur le PS Plus, ce que je trouve assez triste. Bon, j'imagine que ça se réglera dans le temps, mais voilà. Donc moi, là, pour l'instant, je ne me vois pas, c'est 40 balles en moyenne un jeu VR. Pour un jeu expérience, parce que là, tu vois, Call of the Mountain, on sait déjà que c'est une petite dizaine d'heures de jeu, si je ne dis pas de bêtises, entre 8 et 10 heures, il me semble. Bon, là, moi, j'ai d'autres jeux à faire, je vais attendre un petit peu. J'attendrai des soldes, par contre, clairement, ça m'a donné envie de tester plein de trucs. Donc, effectivement, le jeu en lui-même, bah, déjà, c'est beau. Graphiquement, c'est magnifique. Il est très immersif. Alors, c'est bien parce qu'ils te font vraiment entrer progressivement dans la VR. C'est-à-dire que tu commences le jeu, tu es dans une expérience un peu train fantôme. Donc, tu es assis dans une barque et tu discutes avec des personnages et tu as des dinosaures robots autour de toi. Donc, tu as vraiment le côté un peu parc d'attractions qui passe très vite. Hein. Au fur et à mesure, ils te font montrer comment grimper. important parce qu'il y a vraiment beaucoup de phases de grimpe dans le jeu. Mmh. Et puis plus tard, tu as un arc, etc. Donc ils te prennent vraiment par la main. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Donc oui, effectivement, c'est beau. Alors moi, le système sonore, il me dérange un peu parce que c'est des intra-auriculaires qui sont branchés au casque. J'étais tout le temps en train de les perdre, donc je suis pas hyper convaincue par ça. Faudra que je mette en place un autre système son. Alors tu vois, c'est dommage, mais je sais que mes AirPods, sont pas reconnus par la PS5. Ça, j'espère qu'ils vont faire quelque chose parce que c'est quand même un peu la tristesse quand Bluetooth, tu peux puisse pas les connecter. Mmh. Donc petit point négatif là-dessus. Après, sur le jeu en lui-même, oui, c'est, enfin, franchement, moi je trouve que c'est la moitié du jeu, c'est des phases de grimpe. Mmh. Donc je suis assez mitigée là-dessus. Alors c'est sympa parce que du coup ça te, forcément si tu grimpes c'est que tu vas aller plus haut, et quand tu vas plus haut t'as des corps qui sont vraiment impressionnants, donc t'es vite récompensé en fait par ces phases de grimpe. Maintenant j'ai un peu l'impression qu'on nous prend pour des yankees, comme pour le terme de tout à l'heure, parce que quand la moitié de ton jeu tu le passes à faire de la grimpe, c'est vraiment le gameplay du pauvre, quoi. C'est, enfin tu vois, ça n'apporte rien même physiquement, enfin tu vois, au niveau des ressentis de jeu, c'est pas intéressant. Donc je suis un petit peu partagée là-dessus. Par contre, les combats, j'ai adoré. Vraiment, mmh. Tu dois aller prendre l'arc dans ton dos, venir encocher les flèches à la main. J'ai trouvé ça assez jouissif. Le système d'esquive, de déplacement est bien géré. Donc ça, j'ai vraiment bien aimé. Donc, expérience visuelle plutôt positive. Au niveau du gameplay, les phases de combat, je les ai trouvées réussies. Maintenant, c'est vraiment beaucoup de temps où tu passes à grimper, et j'ai l'impression d'être un peu pigeonné là-dessus, quoi. Si tu passes la moitié de ton temps à grimper, je trouve que c'est un peu facile, quoi.
Et du coup, parce que le grimpage, c'est quand même la quintessence. Enfin, le grimpage, c'est du tourisme, on va dire, et tu regardes des trucs autour de toi. C'est quand même la quintessence de la VR. Le fait de te mettre dans des situations où tu fais mais attends, je vis dans le truc là.
De la contemplation. Suis,
ouais, mais si tu mets la même chose sur ta télé, ça fait pas le même effet, quoi. T'as vraiment, t'es immergé dans le truc, t'as de la vision en 3D, t'as peur de tomber, tu vois. Est-ce que ça t'a fait cet effet, toi? C'est le début de la VR pour toi. Ça t'a fait cet effet, ce casque, ça fonctionne, cet aspect, l'effet waouh de la VR?
Ouais. Ouais, complètement. Je trouve que ça fonctionne vraiment très bien. En plus, le casque vibre. Alors, ça peut sembler bête de dire ça, mais dans un jeu comme Horizon, où t'as les dinosaures qui viennent voler juste au-dessus de toi et que t'as tout qui vibre, le casque y compris, je trouve que ça rajoute vraiment beaucoup à l'immersion. Et clairement, l'effet waouh, il est là. Et je trouve que c'est vraiment un jeu VR tel qu'on a envie d'y jouer, tel qu'on l'imagine. Le genre d'expérience qu'on a envie de vivre avec la VR, quoi. Donc, non, moi, en tout cas, pour une première expérience, je pense que c'est pas le jeu le plus impressionnant en termes de mécanique de gameplay lié à la VR, mais ça reste, je trouve, une première expérience, moi, à mon niveau, que je trouve très agréable. Et le fait que j'ai vraiment passé deux heures de jeu complète où je me suis sentie bien et j'ai pas vu le temps passer et j'ai eu envie de rejouer très vite derrière, tu vois, ça veut tout dire, quoi.
Mmh. Écoute. Petite question, tes autres sessions de jeu étaient aussi longues ou pas?
Non, après j'ai refait des plus petites sessions et là je sais pas, ouais. Je dois avoir 3 ou 4 heures au compteur, tu vois, donc j'ai dû faire à peu près la moitié du jeu. Autre chose hyper chouette sur ce casque, c'est qu'effectivement tu peux, t'es pas obligé de faire que des jeux VR, tu peux avoir un simulateur d'écran de télé, on va dire, et lancer ton jeu classique. Donc moi je peux tout à fait regarder la télé pendant que mon mari joue à God of War, tu vois, par exemple sur le casque. Alors après c'est un peu particulier, moi je pense que je le ferai pas de jouer sur le casque avec un faux écran de télé, je trouve que c'est un peu too much pour moi. Mais du coup, c'est pas mal parce que ça t'offre aussi une liberté en termes d'utilisation des différentes consoles et que tu as chez toi qui est pratique. Mmh.
Bon, encore un aspect, une impression plutôt positive sur le PSVR 2. Moi je me dis, si quand il y aura un peu plus de jeux, il va y en avoir. Et quand il sera un petit peu moins cher, ça va arriver. Peut-être que je me laisserai tenter.
Oui, encore une fois, moi, j'aurais pas mis 650 € là-dedans. Je pense que le jour où il descend à 500, 400 peut-être. 400, on va attendre un peu. Mais...
Ouais, on va attendre un petit peu. Resident Evil Village est compatible PSVR 2, nous rappelle-t-on dans la chatroom.
Tout à fait.
Prochain jeu.
Alors, figure-toi que je l'ai offert à mon mari. Et je lui ai dit, hey, t'as vu, j'aimerais vraiment bien que tu testes pour voir. Et il s'est complètement dégonflé. Donc, je suis déçue. D'autant que la mise à jour est gratuite sur le PS Store. Et je lui avais dit, allez, juste pour... Moi, j'aimerais bien voir, tu vois, parce que quand même, maintenant, on peut considérer que je suis journaliste.
La journaliste planquée avec son téléphone en train de filmer, tu sais, pendant que lui est... Très bien.
Bien évidemment, je plaisante, je ne me permettrai pas d'avancer de tels arguments. Mais non, pour l'instant, je n'ai pas réussi à l'avoir, à l'usure peut-être.
Très bien.
J'imagine trop la discussion. Alors, pour m'offrir un VR2, il y a du monde, mais alors pour jouer à Resident Evil, il n'y a plus personne.
Non, mais il ne l'a pas offert, il l'a acheté pour lui. Pour donc, lui. Tu vois, je peux pas. C'est même pas un argument valide, ouais. Malheureusement.
Ok. Et petit point bonus qui n'a rien à voir avec le game design en tant que tel, mais tu as dû remarquer, je pense, Escarina, il y a des summums du design sur le casque qu'ils ont imprimé, ça j'ai adoré en mode design, ils ont imprimé tous les motifs carré, triangle, croix sur le revêtement en fait du casque, la partie noire du PSVR 2. Voilà.
Mais ils font ça partout.
J'ai pas vu. Mais je trouve génial.
Mais ils font ça partout. Sur la PlayStation, il y en a partout. Sur la PS5, sur la manette. C'est attends, que je dise pas de bêtises.
Non, mais là, sur la manette. Celui-là, je trouvais ça très, très classieux.
Mais tu vois, je ne l'ai même pas vu, donc il faudra que je le regarde.
Elle n'est pas sur la manette ?
Ah mais non, il n'est pas sur la manette. Ouais. Vous croyez qu'ils avaient non, aussi ce petit revêtement bizarre ?
Ils le font souvent, Patrick, ouais. Je suis d'accord. Mais là, effectivement, sur le PSVR, c'est très discret. Eska ouais. L'a pas vu, donc c'est...
Très bien. Eh bien, écoute, merci pour ces impressions, Eska. Est-ce que tu veux parler de Cult of the Lamb ? Ou on a passé un petit peu de temps, donc je ne sais pas si c'est... On a déjà parlé
très
à plusieurs
rapidement.
Reprises.
Un petit jeu de roguelike mêlé à un jeu de gestion de ville très sympa, très second degré. On joue un petit agneau qui est sacrifié, qui est ressuscité par un démon à condition de devenir son apôtre et d'aller convaincre des fidèles de rejoindre son culte. C'est très fun. C'est vraiment pas original en termes de gameplay pur, mais l'univers est chouette et les mécaniques sont bien empruntées et très addictives. Donc... voilà, je recommande. Très,
ouais,
très chouette.
On en a beaucoup parlé il y a quelques mois. Tu y as joué aussi, Mehdi ?
Oui, j'ai pas grand-chose de plus à rajouter. Qu'est-ce qu'il y a ?
Il est très sympa. Ce qui est original, c'est le mix entre le jeu en roguelite action et la gestion de culte. Et bien sûr, le fait qu'on puisse nommer ses followers, comme on dit, ses adeptes. Je suis sûr que tu leur as donné les noms de tous tes... camarade de Gamerside.
Franchement, j'y ai même pas pensé, mais j'aurais tellement dû le faire.
Mais c'est tellement drôle de choisir qui on va sacrifier quand on fait ce genre de choses, tu sais.
Mais moi, je suis dans un culte où on ne sacrifie pas.
Ah merde.
Chez moi, c'est... Ouais, non, bah écoute, la bienveillance.
J'aime bien le « ah merde
». Je les sacrifie involontairement, on va dire. Mais...
Ah oui, d'accord, c'est ça. Bah oui, donc tu peux dire
« oups ».
Très bien. Moi, je vais vous parler un petit peu de Destiny, mais peut-être que Mehdi a un mot ou deux à nous dire sur l'un des jeux auxquels on joue en ce moment. Ou pas forcément, hein, t'es pas obligé.
Oui, il y en a deux sur lesquels en fait j'ai passé du temps, mais ça va être très bref. Le premier que tu, je crois de mémoire, que tu as dû couvrir sur un rendez-vous jeu ou pas, c'est Atomic Heart.
Oui, on en a parlé la semaine dernière déjà.
Voilà. Alors moi, je vais vous en parler. Ouais, je vais vous en parler sur un angle dont tout le monde a parlé sauf de ça, c'est-à-dire je vais vous parler du jeu. Je vais pas vous parler du robot d'Infoman, ni effectivement des parts de marché de la société en collab avec Mundus, mais le jeu est mauvais. Voilà, c'est simple.
Ah oui.
J'ai fait une petite vidéo là-dessus où je décortique tout ça, donc sera publié aux alentours de ce week-end. Mais le jeu est fondamentalement mauvais, c'est ce qu'il faut retenir. Et c'est ce qui m'a ennuyé, évidemment, quand Internet s'enflamme, c'est qu'on oublie l'essentiel, à savoir de parler du game design du jeu. Et malheureusement, il y avait beaucoup de promesses. J'étais très hypé, hein, les gens qui étaient sur mon live sur Twitch quand je l'avais balancé. Alors, c'était très drôle parce qu'en fait, j'avais tout mis en mute quand j'avais vu le trailer à l'époque avec je sais pas si vous avez vu le trailer à l'époque avec la musique un peu dance des Russes qui était géniale, qui t'ambiançait de dingue, et grosso modo j'ai dit je veux rien savoir sur le jeu, et ben j'aurais dû en fait, parce que finalement le jeu est vraiment une catastrophe, et toute la logique de dynamique qu'ils ont voulu intégrer sur la nervosité et la lourdeur avec les grosses armes, ça fonctionne pas, les caméras suivent pas, enfin voilà, j'en parle assez en détail, donc je vais pas faire long. Par contre, je vais rester sur une note un peu plus positive. J'ai joué à Un jeu qui s'appelle Phare, qui est une bouffée d'air frais, de légèreté.
Juste Phare,
de ce que vous voulez.
Genre loin.
Phare
Changing Tides, oui, je m'en souviens.
Changing Tides, merci beaucoup. Okay. Donc en gros, vous incarnez un petit personnage qui est sur un bateau et vous allez partir à l'aventure. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si vous aimez les délires, tendance, journey, contemplative, etc. C'est très bien rythmé. Vous avez une vue, effectivement, côté avec quelques petites variations de la caméra pour rajouter à la dynamique globale. Ça fonctionne bien. Ça ne dure que quelques heures. Les ambiances, sound design et les compos sont superbes. Voilà, vraiment, c'est. Je ne sais pas si certains y ont joué dans le chat ou vous-même, mais ça me rappelle un autre jeu qui était sur Wii, qui s'appelait Lost Winds, où vous contrôliez le vent avec la Wiimote. C'était ressorti ensuite sur Tactile, iOS, Android, et vraiment très chouette. Je ne sais pas, Escarina, apparemment, tu y avais joué aussi.
J'ai joué quelques heures de mémoire, il était sur le Game Pass. Et ouais, et je pense que c'est dans ce contexte-là que j'y ai joué. J'ai fait quelques heures, mais l'univers un peu morose m'a lâché. Voilà, ça avait l'air. Effectivement, je te rejoins. Il y a vraiment une DA bien à elle. Un petit jeu très bien réalisé, mais j'ai pas été au bout. C'était plus pour essayer qu'autre chose. Et j'avais besoin d'un peu plus de soleil et de fleurs, je pense, à ce moment-là.
Et pourtant, il y en a une fleur que tu gardes.
Ça pose ambiance tout de suite, il y a une fleur, ok. Mais c'est quel genre de gameplay du coup, parce que tu parles de jeu d'aventure, mais...
Jeu de côté, tu peux penser à du inside avec le côté dark en moins, donc tu vas manipuler les moteurs, éventuellement éteindre... Alors par contre, je dis
donc,
ça, mais...
Donc plateforme très simple, ambiance quoi.
Ouais, plateforme, mais t'as aussi des sessions où tu vas naviguer sous l'eau, comme tu es en train de le diffuser, de manière très dynamique d'ailleurs, donc on se retrouve pas sur les va-et-vient qu'il peut y avoir à faire sur les différents lieux, bateaux, où des fois, évidemment, micro-spoil, on doit débloquer le chemin, donc forcément, on va remonter, sortir du bateau, aller à la surface, etc. Donc voilà, ça reste assez dynamique, assez sympa, et même comme Esca, si vous le terminez pas, laissez-lui sa chance, parce que ça reste une expérience sympa. Pas, même si vous n'allez pas à son terme.
D'accord. Super, merci beaucoup. Donc, Phare Changing Tides, il est que sur PlayStation ou il est sur Xbox? Non, tu disais qu'il était sur le
Game Pass. Sur... Ouais.
Tiens, et j'ai même pas pensé à te le dire, Esca, mais le jeu à prendre sur PSVR, et je crois qu'il est sur le 2, c'est Beat Saber. Celui-là, c'est un banger garanti.
Oui, ouais, tout à fait, mais il n'est pas encore sorti de mémoire. Hein.
Ah d'accord, ok. Bon, bah quand il arrive, je
le pas encore dispo. Mais même franchement, je trouve que sur le store, il y a déjà quelques jeux qui font assez envie. Typiquement, moi, Rez, j'aimerais bien le refaire en VR, parce que les seules expériences que j'ai eues, c'était pas en VR. Et Tetris Ultimate aussi, paraît qu'en VR, c'est vraiment une expérience à part entière. Mais pareil, tu vois, je ne mettrais pas 40 euros dans Tetris Ultimate. Quoi.
Tetris, non, c'est Tetris Effect, tu veux dire
Tetris Effect, pardon, ouais, excuse-moi.
Et super hot, s'il te plaît, Scarina, absolument.
Bah oui, mais alors j'y ai joué sur PC et je pense que je vais m'énerver très très fort.
Ah d'accord, ok.
Ouais.
D'accord.
Tu veux pas me voir énervé.
D'accord, non, mais je te crois sur parole. Je me permets juste de tricher en une phrase. Je vous recommande un autre jeu parce qu'il est dans l'actu totale. C'est le fameux bundle qui a été sorti pour soutenir la Turquie actuellement. Et c'est un jeu qui s'appelle Pill Baby, donc Pill comme un cacheton à prendre et Baby comme un bébé. Et en gros, c'est un jeu complètement déglingue. Vous allez avoir des séquences psychédéliques d'une nana qui se retrouve suite à son... Je sais plus si elle perd son taf ou pas au début du jeu ou quoi que ce soit, et qui va affronter des espèces de créatures. Alors, ça a l'air complètement explosé et je fais amende honorable au niveau du jeu. Alors, il y a des trucs qui sont très perfectibles, on sent que c'est pas une grosse prod. Mais si vous êtes dans les délires, alors c'est à l'opposé de Phare Changing Tides, mais si vous êtes dans les délires dark psychédéliques,
c'est hyper bizarre.
C'est une très très chouette surprise, en tout cas que j'ai faite avec ce bundle. Et en plus, alors je sais pas si l'offre est terminée, mais si vous avez l'occasion et envie de soutenir, le bundle est sur le Humble Bundle Store et c'est pour soutenir les victimes des drames récents. Voilà.
Très bien. Pill Baby, P-I-L-L Baby. Oui, mais c'est complètement délirant, ce truc. Très bien. J'ai découvert un truc aujourd'hui. Merci. Pour ma part, je vais vous parler un petit peu de Destiny 2 Lightfall. Et j'en ai un petit peu plus à dire que la semaine dernière, où j'avais vraiment joué juste 2 heures, parce qu'il y a eu beaucoup de controverses, ou en tout cas de plaintes, sur la nature de Destiny 2 Lightfall, de cette extension. L'année dernière, The Witch Queen avait genre mostly positif, plutôt positif sur Steam. Là, il a plutôt négatif. Les gens ne sont pas contents du tout. Et je vais vous expliquer pourquoi. Comme ça, vous comprendrez un petit peu de quoi il en retourne. En fait, le problème de Destiny 2 Lightfall, c'est que l'histoire de l'extension est complètement pétée, mais et honteuse. C'est-à-dire que ça n'a aucun sens. On est au pire de ce qu'a pu proposer Destiny. Et si vous m'avez écouté, et si vous avez écouté qui que ce soit parler de Destiny ces 10 dernières années, vous savez que Destiny, l'histoire, non seulement c'est pas son fort, mais en plus, c'est frustrant tellement tu comprends rien à ce qui se passe dans, on va dire, la moitié des extensions de Destiny. Et en particulier au tout début, dans le premier jeu, l'histoire était tellement inepte que tu comprenais absolument rien à ce que tu faisais. Évidemment, c'était compensé par le gunplay et le fun du jeu lui-même qui était indéniable. Comment il dit, Thanos ? Je suis inéluctable, I'm unavoidable, je ne sais plus.
Je crois que c'est ça.
Ouais, bah c'est un petit peu la même chose sur Destiny. C'est le gunplay qui fait le truc et le jeu en lui-même. Et l'histoire n'a jamais été intéressante. Et là, bah, c'est exactement pareil. Alors, c'est vrai que, encore une fois, l'extension, il y a tout un tas de raisons pour lesquelles elle est bâclée. Au niveau de l'histoire, hein, je précise, la campagne, l'histoire de la campagne a l'air d'être bâclée. Et il y a plusieurs théories sur pourquoi et de quelle manière c'est une extension filler, une extension pour remplir en attendant la prochaine. En fait, il y a 3 ans, ils avaient annoncé les 3 extensions à venir. Il y avait Beyond Light, The Witch Queen et Lightfall. Et ils disaient, Lightfall, donc celle qui est sortie maintenant, ça sera la dernière extension du cycle de la lumière et de l'ombre, et ça va conclure l'histoire, ça sera, il se passe des trucs, ça va être incroyable, vous allez voir. Et sans qu'on comprenne, quelques mois plus tard, ou 1 an plus tard, ils disent « Ok, on vous a annoncé The Witch Queen et Lightfall. Et bien là, on vous annonce The Final Shape, qui sera la fin de l'histoire et il va se passer des trucs incroyables. C'est l'extension d'après. » Et à ce moment-là, on n'a pas trop tiqué. On s'est dit « Ah bon, ok, donc il y a encore une autre extension après, d'accord. » Sauf que, dans la pratique, ce qui a l'air de s'être passé, c'est qu'ils n'avaient pas assez de temps, visiblement, pour faire ce qu'ils voulaient faire avec cette fin de cycle. Moi, j'imagine que ça sera un petit peu le Destiny 3 qui sera juste Destiny, il n'y aura plus Destiny 1 et 2, machin. Enfin, ils vont faire une refonte des systèmes. Et donc, ils se sont dit, bon, on convertit Lightfall, qui était censé être la dernière, en un truc intermédiaire, et la vraie, ça sera The Final Shape, qui sera la prochaine. Et un autre indice qui est quand même intéressant, c'est que la cinématique d'introduction de Lightfall, c'est un morceau de cinématique où on voit des trucs incroyables qui se passent, mais ce qui est important, c'est que la cinématique de fin, il s'est passé plein de choses hein, entre les deux, ben, la cinématique de fin, elle reprend exactement là où s'arrête la cinématique d'entrée. Mais vraiment, genre, les personnages sont au même endroit, ils regardent la même chose et c'est la suite. Donc, on a vraiment l'impression qu'ils se sont dit « Ok, on prend cette cinématique, on la coupe en deux, cette cinématique qui était censée être celle d'intro pour voir ce qui se passe à ce moment, on la coupe en deux et on va faire un truc au milieu avec une campagne. Bon. » Et la campagne, elle est tellement décevante parce qu'on a toute cette anticipation, il se passe des trucs à la fin de Witch Queen avec les saisons, il se passe des trucs et on se dit « tout ce qu'on a vécu ces 10 dernières années avec les trucs un petit peu bizarres. Bon, parfois, l'explication et les campagnes étaient un petit peu meilleures, mais il se passe des trucs bizarres. Il y a le Traveler, cette grosse boule qui est au-dessus de la Terre, qui nous a donné la lumière, qui est attaquée par l'ombre, ou je ne sais plus comment ça s'appelle en anglais, mais par le Darkness. Et puis, il y a le Témoin qui arrive et qui va détruire le Traveler. Il se passe des trucs. Et donc, on arrive au milieu de ça. Et en plus, on va, pour trouver une solution à ce problème, on va sur une nouvelle planète avec une race cachée qui a évolué depuis des centaines d'années sans qu'on la découvre. Et il y a cette planète rétro-futuriste en néon, tout ça. Et donc, on a cette grande bataille spatiale avec l'ombre contre la lumière. On va sur cette planète, et sur cette planète, c'est genre, il y a deux mecs, je rigole pas, hein, deux mecs, dont un qui est une sorte de dude bro américain qui est à l'université. Je vais « Salut les gars, comment ça va ? Bon, alors on va aller chercher The Veil parce que le Radial Mast est en train de le menacer, et si on le perd, vraiment, ça serait pas bien. Hein. » Tu dis de « Attends, quoi ?» De quoi ? Et ils expliquent à aucun moment ce que c'est que The Veil, ils expliquent pas ce que c'est que The Radial Mast, et à la fin, c'est genre « Oh, mes amis, ils sont allés sur le truc, et puis « Oh merde, oh mais on a perdu !»« Oh non !» Et je déconne pas, c'est ça. Et tu comprends, et vous pensez que vous n'avez pas compris l'histoire quand je vous la raconte comme ça, et qu'en fait, il doit y avoir autre chose dans l'histoire, parce que non, c'est ça, l'histoire. C'est juste ça. Donc, évidemment, quand on voit ça, après le build-up, l'anticipation de « c'est la fin de la saga de machin et l'obscurité contre la lumière », on se dit mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est le pire de Destiny qui était déjà pas très brillant là-dedans. Et le personnage, en plus, c'est cette nouvelle planète d'une sorte de race qui a évolué à partir des humains. On se dit, mais ça va être incroyable dans cette planète, on va voir des trucs. Et en fait, il y a deux mecs et les autres, ils sont dans une sorte de métavers. Donc, ils sont tous enfermés quelque part, on ne les voit jamais. La ville est entièrement vide et ils sont tous dans le métavers. Eux, ils sont tranquilles entre eux et on ne les voit pas. Donc, c'est, encore une fois, au niveau de l'histoire, méga décevant. Et c'est pour ça que tout le monde est déçu. Maintenant, il y a aussi des gens qui disent qu'il y avait déjà eu une extension un petit peu filler au moment de Destiny 1, avant l'arrivée de Destiny 2, qui s'appelait Rise of Iron, et qui était moins chère. Donc le prix aussi frustre les gens, mais l'extension de là, elle est beaucoup plus complète que Rise of Iron, parce qu'il y a une nouvelle zone, pas un truc recyclé, c'est une vraie nouvelle zone designée, et il y a une sous-classe qui ajoute énormément de gameplay. La sous-classe qui s'appelle le Strand, le fil obscur en français. Et c'est super fun à jouer. Tu as une sorte de grappin dans l'univers de Destiny où tu n'as jamais pu te déplacer de cette manière. Tu as un grappin qui te permet de te déplacer n'importe où et de te balader et de faire un énorme coup de poing en arrivant. Bref, ça, c'est super fun et ça touche à l'autre aspect de Destiny parce que l'histoire, comme je disais, elle a toujours été pourrie. Et je ne comprends pas les gens qui... Même quand, vous vous en souvenez peut-être, quand Destiny 2 est sorti, les gens disaient « Ah, il y a enfin une vraie histoire de Destiny. Là, on comprend, la campagne est cool. » Et moi, je vous disais, vous connaissez mon amour pour Destiny, je vous disais déjà à l'époque, mais la campagne est cool, arrêtez-vous, quoi. Alors, elle est pas aussi mauvaise qu'elle l'était à l'époque de Destiny 1, mais elle est juste médiocre. C'est une campagne, tout ce qu'il y a de plus classique de jeux vidéo... Et pas très bien exécuté, quoi. C'est genre, oh, il y a un gros méchant, faut aller le tuer. Voilà, ça se résume à ça. C'est la campagne bien de Destiny. Et là, donc, les gens qui jouent à Destiny en espérant avoir une belle... Enfin, si on a une histoire cool, moi, je serais super content. Mais c'est pas pour ça qu'on joue à Destiny. Et le traitement qui a été réservé à Lightfall me paraît un petit peu injuste parce que le gameplay, tout cet autre aspect, est super cool. Vraiment. Moi, j'ai passé un super moment à faire la campagne légendaire. J'en ai chié ma race. Excusez-moi, je me laisse aller, mais vraiment, chaque niveau est d'une difficulté en légendaire. Hein. En normal, on peut tout à fait faire la campagne et se balader, mais en légendaire, c'est un vrai challenge et j'ai eu tellement de mal. C'est tellement dur que moi, je le compare à moitié facétieusement, avec facétie, mais à moitié vraiment à du Dark Souls. Il faut que tu apprennes les patterns des boss, ça va te prendre des dizaines d'essais, il faut que tu te fasses ton build pour que ça corresponde à l'encounter que tu vas faire, surtout si tu n'as pas joué depuis quelques mois, c'est un peu dur de se remettre dans le bain. Mais je me suis vraiment amusé, je me suis dépassé, c'était un super challenge. J'ai trouvé un truc dont les gens se plaignent, que l'introduction de la nouvelle sous-classe, les nouveaux talents, était plutôt sympa dans la campagne, que ça fonctionnait bien. Et le dernier boss, mais j'y ai passé, je ne sais pas, 50, 100 essais. Et quand j'ai réussi à le finir, et c'est marrant parce que c'est un petit peu comme dans... Je dis Dark Souls, mais je n'ai pas beaucoup joué à Dark Souls. J'en ai plus chié sur le dernier boss de Destiny 2, Lightfall, que sur n'importe quel boss de Elden Ring. Parce que Elden Ring, je l'ai un petit peu poncé. Et... il faut vraiment, de la même manière que dans Elden Ring, au début tu comprends rien à ce qui se passe, tu te dis mais jamais je vais réussir, jamais je vais pouvoir, Et à force, tu apprends, alors là, ce n'est pas les patterns d'un boss, mais c'est quel groupe de mobs va spawner à quel moment, où tu dois te placer, comment tu vas dealer avec quelle arme, avec quelle build, tu vas pouvoir mieux dealer avec tel groupe d'ennemis, etc. Et je me suis super amusé à faire ça. Et le dernier boss, quand j'ai réussi à le tomber, je peux vous dire que j'étais plus satisfait que dans n'importe quelle autre expérience de jeu vidéo. Et je me suis dit, je l'ai fait, quoi. C'est vraiment le sentiment de Elden Ring, Dark Souls, tout ça. C'est pour ça que je le compare à ça. Je l'ai fait. J'ai réussi à le faire. Et bon, il y a plein de gens qui réussissent à le faire, mais ça m'a apporté une satisfaction que je n'ai pas souvent. Et ils ont toujours été très bons dans le dosage de la difficulté dans Destiny. Mais là, c'était deux crans au-dessus et tu disais, mais je ne peux pas. C'est pas possible. Tu fais tes 10 premiers essais sur ce boss, tu te dis, je vais pas y arriver. En tout cas, moi, quand, à mon niveau de capacité de gameplay, tu te dis, mais c'est impossible. C'est juste, il va falloir cheeser, il va falloir trouver un moyen. Et je me dis, non, je vais essayer, et j'y suis arrivé. Et à côté de ça, bah, après, tu reprends Destiny, et je vais pas vous ressouler avec ça, mais tu reprends Destiny classique, avec des événements publics, des quêtes à faire, des patrouilles, des machins, et c'est fun, comme Destiny l'a toujours été. Donc, peut-être que The Final Shape fera un truc, la prochaine extension fera un truc vraiment cool au niveau de l'histoire. Et il y a de quoi faire, parce qu'ils sont vraiment améliorés avec les dernières années, d'où la déception de celle-ci. Mais peut-être que ça fera mieux, et j'espère. Mais à ce stade, Lightfall, moi, me donne ce que j'attends de Destiny de la même manière que pour toutes les autres extensions, quoi. Voilà pour mon Laïus. Mais... qu'est-ce que je suis ? Qu'est-ce que j'étais à fond sur cette campagne. C'était super cool. Et puis l'autre jeu auquel j'ai joué, c'est Dead Cells, l'extension Castlevania. Alors j'ai eu un petit peu moins le temps de jouer parce que, spoiler alert, ma fille était malade. Donc j'ai pas eu assez de temps pour jouer, pas autant que j'aurais voulu. Mais c'est marrant parce que, je sais pas, sur j'ai pas passé le premier biome encore, donc peut-être que ça change un petit peu après, mais j'attendais que le dosage Dead Cells Castlevania soit un peu plus en faveur de Castlevania qu'il ne l'est dans mon expérience, parce que là, c'est super cool, hein, mais c'est vraiment Dead Cells dans des biomes inspirés par Castlevania. J'ai pas encore eu les armes de Castlevania, mais c'est vraiment Dead Cells, le gameplay de Dead Cells, qui est avec des petits trucs nostalgiques de Castlevania. Et ça marche, hein. Moi je suis à fond et j'ai envie d'y rejouer maintenant. Et ça marche surtout parce que Dead Cells est un jeu incroyable, quoi. On met un petit peu de temps à se remettre dans le bain parce que c'est vraiment rapide et nerveux. Et quand on n'y a pas joué depuis un moment, il faut se souvenir de quel bouton fait quoi. Mais qu'est-ce que c'est un bon jeu, c'est fou. Et l'aspect Castlevania ne gâte rien. Mais j'espère qu'il y aura un petit peu plus de Castlevania, et j'ai l'impression, hein, de tout ce qu'on voit dans les trailers et tout ça, que ça sera le cas, et j'ai hâte d'y arriver. Mais à ce stade, c'est Dead Cells, et Dead Cells, bah, c'est cool, donc forcément je suis content d'y jouer.
J'entendais... Et du coup, ouais. Si...
Ouais, vas-y,
ouais, moi j'adore Dead Cells, par contre Castlevania c'est une licence qui me parle moins. Est-ce que quelqu'un comme moi du coup va trouver son compte aussi?
Bah, tu aimes Dead Cells?
Bah oui, c'est ça.
Donc c'est plus de Dead Cells. Donc oui, tu vois, si tu veux plus de Dead Cells. Par contre, l'aspect fun de... Je dirais que c'est peut-être pas plus mal d'y jouer, parce que Castlevania, c'est tellement un monument de l'histoire du jeu vidéo que ça va te montrer des trucs qui te rappelleront peut-être d'autres choses après, ou tu vois, ça va te donner une fenêtre sur Castlevania, c'est marrant aussi. Je crois qu'il est à 10€ ce DLC, donc c'est un DLC cher pour Dead Cells, faut payer Konami, bien sûr. Mais je sais pas s'il est mieux que les autres parties de Dead Cells, tu vois. J'ai pas encore assez d'expérience pour te dire si c'est mieux que le reste de Dead Cells et si ça vaut le coup à ce niveau. Mehdi, t'y as joué aussi ?
Ouais, non, j'ai pas joué, j'ai hâte. Mais ils ont, je pense vraiment qu'ils ont, on regarde ce que tu as dit, ce que j'ai un petit peu vu, ils ont pas perverti l'idée, pour continuer de te répondre, Scarina, même si, sans avoir accroché à Castlevania, la trame de Dead Cells, sans enlever du mérite évidemment au studio sur le taf de dingue qu'ils ont fait, ça reste Symphony of the Night, hein, et c'est pas pour dire ça en mode réac coincé dans sa bulle des années 2000, mais grosso modo, je pense que franchement, tu y trouveras ton compte. De ce que j'ai un petit peu anticipé au niveau de comment tu vas utiliser les armes en fonction du level design, en fonction de la dynamique globale, ça a l'air de super bien se pondre dedans. Et Patrick semble enfoncer le clou du cercueil sur l'idée. Voilà.
Ce que j'espère, on verra quand j'y jouerai un petit peu plus, c'est que l'ambiance Castlevania sera... Enfin, que contrairement aux autres biomes, par exemple, quand je débloque les armes Castlevania, elles vont tomber plus souvent, au minimum. Parce que si je me retrouve à faire, je ne sais pas combien d'armes, de dizaines d'armes débloquées, si j'ai jamais les armes Castlevania dans le biome Castlevania, ça serait un petit peu frustrant, quoi. Donc, à voir, parce qu'il y a, je sais pas, il doit y avoir une dizaine d'armes Castlevania spécifiques dans le truc. Sur les 50 disponibles, bon, bah, j'espère qu'elles tomberont plus souvent. J'imagine que c'est possible, mais
ouais.
À voir.
Moi, franchement, connaissant Motion Twin, je m'inquiète pas trop. Et puis, c'est une bonne alternative pour ceux qui n'ont pas accroché à Blasphemous pour avoir une dimension encore un peu plus dark de Dead Cells, même si je pense que ça restera quand même assez édulcoré au sens positif du terme.
Oui, ce que j'ai vu jusqu'à maintenant, c'est quand même... C'est Dead Cells. Hein. Enfin, vraiment, c'est d'autres biomes pour Dead Cells et c'est super cool. Et bon sang que Dead Cells, c'est bien. J'ai envie de jouer à Dead Cells. C'est ça la conclusion. Et voilà pour les jeux auxquels on a joué ces derniers temps. On couvre le reste de l'actu en quelques mots. Avec première news du reste de l'actu, l'annonce de la bêta ouverte pour la Premier's League presque de Valorant. C'est quoi ? En fait, c'est un mode tournoi par équipe. C'est une sorte d'introduction à l'e-sport. On a vraiment des tournois avec... on constitue une équipe fixe, avec des remplaçants éventuellement, machin. Et il faut jouer un certain nombre de matchs dans la période. Et il y a des championnats. Et puis après, il y a le tournoi, etc. Pour ce mode-là, je trouve ça très malin pour un jeu vraiment compétitif. Et je me demande pourquoi c'est les premiers à le faire. Je n'ai pas l'impression que ça existait ailleurs. J'ai trouvé ça malin, quoi. Vraiment, la constitution d'une vraie équipe. Pas juste on va jouer à 4 ce jour-là et à 4 autres le jour suivant ou à 5 autres le jour suivant. Là, c'est une équipe qui doit jouer ensemble et qui doit faire un certain nombre de matchs. Alors, c'est plus sérieux que les matchs habituels, mais c'est plutôt cool comme idée, je trouve.
C'est carrément. Je suis d'accord avec toi. Je suis aussi étonné que ça n'ait pas été fait avant.
Ouais.
Assez peu ou pas de manière aussi avancée. Moi, ma seule crainte sur cette annonce, c'est que ça va être encore plus dur de demander à mes étudiants de regarder leur écran pour mes cours et non pas pour leur tournoi de Valorant.
Écoute, je pense que... Non, je ne sais pas, je n'ai pas de solution. En fait, bon courage, c'est ça. Il y a aussi Counter-Strike, puisqu'on parle de Valorant, on parle forcément de Counter-Strike, visiblement. Counter-Strike 2, qui est en fait CSGO dans le moteur Source 2, serait en train d'arriver très très bientôt. Donc, si vous êtes fan de CSGO, et il y en a beaucoup, ben vous pouvez look forward, please look forward to it. Call of Duty va... Alors, ça, c'est la question. Est-ce que les crossovers vont trop loin ? Il y a visiblement un crossover Call of Duty avec... Attention. Quand je vous dis Call of Duty, la guerre, tout ça, vous pensez à quoi ? Évidemment, vous pensez à Teenage Mutant Ninja Turtles. Ben, il y aura un crossover qui va arriver, visiblement.
Est-ce que c'est pour faire écho à l'annonce du film d'animation là, de Seth Rogen ? Je ne sais pas, est-ce qu'il surfe sur la vibe ?
C'est possible, oui, c'est très possible. En même temps, quand on voit la manière dont ils ont rendu l'armure de Shredder, ça fait presque réaliste pour Call of Duty. Enfin, pas réaliste, mais ça pourrait coller dans cet univers. Donc, peut-être qu'il ne faut pas être trop jugé trop hâtivement.
Non, jamais, mais le seul truc que je retiens qui n'a rien à voir, c'est regarder le film d'animation de Nickelodeon qui est disponible sur Netflix de Tortue Ninja, qui est extraordinaire, si ce n'est pas déjà fait. Voilà. Mais sinon, pour la bouche, j'avoue qu'au-delà du rigolol...
Ouais, c'est clair.
On est d'accord. Bon, bah, au moins, un message important est passé avec cette news. Quoi d'autre ? Il y a Dead Island 2 qui a publié une grosse vidéo de gameplay. Alors... Vous savez quoi ? J'étais pas très intéressé par Dead Island 2 à la base, et après avoir vu cette vidéo de gameplay, je dirais que je suis un tout petit poil intéressé. Voilà.
Oh, ça a l'air chiant, je suis désolé, hein, mais j'ai l'impression qu'ils n'ont rien appris de leur leçon, et puis c'est pas le genre de jeu qui n'existait pas sous d'autres formes. Alors oui, il est en mode third person, Dead Rising, et on va me dire que je ramène tout à Dead Rising et à Capcom, c'est faux, mais non, mais il y a tellement de trucs dans le passage au niveau des interfaces, la lourdeur globale, enfin, t'as eu plein de jeux qui sont sortis beaucoup plus nerveux entre-temps, et j'ai l'impression qu'ils n'ont pas appris grand-chose de ça. C'est vraiment dommage. Je ne le ferai pas plus long, je mettrai les mains dessus, mais c'est vraiment dommage, quoi.
Par
contre, visuellement, c'est toujours aussi réussi. Hein. Ça, on peut dire ce qu'on veut.
Je dirais que c'est réussi visuellement. Et puis, alors, c'est peut-être pas le plus important, mais au niveau physique, des corps et des impacts, tu peux démembrer les ennemis, tu peux, enfin, il y a les yeux qui sautent quand t'as un coup au bon endroit. Bon, je sais pas si c'est forcément le truc qu'on va rechercher au niveau du gameplay et qui va rendre le jeu bien, mais ça, c'est assez impressionnant, j'ai trouvé, genre, en fonction de où tu tapes, etc., c'est pas Dead Space, mais ça, c'est plutôt, ils ont bien bossé le moteur physique, on va dire.
Ouais, mais si, en vrai, je pense que dans un jeu de zombies, c'est vraiment typiquement le genre de fun visuel que tu vas rechercher, donc... Mmh.
Donc ça compte un peu, quoi.
Oui, oui. Puis, ouais, le jeu s'est toujours vendu pour ça, mais après, c'est toujours mon côté vieux râleur. Où est-ce qu'il est, le GD, où est l'expérience utilisateur. Enfin, c'est dommage. C'est, en plus, ça tient pas grand-chose, tant à grand-chose que ça. Voilà, j'arrête.
Non, mais t'as raison. Le gros point d'interrogation avec Dead Island, c'est est-ce qu'il va être vraiment différent du premier ? Et c'était le problème qu'on avait avec Dying Light. Alors, il y a plein de gens qui ont beaucoup aimé le 2, et peut-être qu'il y aura plein de gens qui aimeront le 2 pour Dead Island aussi. Mais la question est tout à fait légitime, quoi. C'est un jeu dont le développement a commencé il y a 10 ans. Est-ce que ça va être un jeu d'il y a 10 ans ? C'est une question qu'on peut se poser.
C'est le vrai problème, tu vois. Autant, je vais prendre un parallèle qui vaut ce qu'il vaut, mais sur les Saints Row, ils ont vraiment progressé. Je parle du 2 jusqu'au 4. Hein. Je ne parle pas de l'hérésie qui est le remaster, je ne sais pas quoi, le reboot, ouais, plutôt. Mais ils ont appris et ils ont poussé dans le côté too much en sachant qu'ils auraient toujours des limites au niveau financier, de dev, ce que tu veux. Et là, j'ai vraiment l'impression, non, quoi, ils sont sur leur délire, on va continuer sur une dimension visuelle genre American Pie qui tourne mal en ville et avec des zombies, et voilà.
Tu dis ça, mais on peut avoir des sortes de griffes de Wolverine électrisées, donc forcément ça c'est plus de points au niveau de la note, quoi.
Ça c'est parce que t'as préco le Call of Duty Shredder.
Exactement. Dans le Game Pass, il va y avoir en mars, il y aura Valheim, Civilization 6. Attention à vos taux de productivité. Heureusement, ChatGPT pourra bosser pendant que les gens jouent à Civ 6. Et Guilty Gear Strive qui arrive dans. Donc là, tout à coup, Mehdi, c'est à les yeux qui seront un petit peu ouverts.
Wow. Je me suis illuminé, même si voilà, pour te donner un ordre d'idée, hein, je me fais tanner, même si j'avais commencé à jouer le jeu par certains de mes étudiants pour faire des games avec eux, pour te dire on en est à ce genre de niveau et de strat là. Mais non, vraiment, si vous avez l'occasion, tentez l'aventure. En plus, c'est sur classique, hein, c'est sur le Game Pass, donc si vous l'avez, il n'y a rien à rajouter. Mais vraiment, superbe, quoi. Guilty Gear Strive, ils ont vraiment fait un boulot. Alors, évidemment, gros débat sur l'équilibrage. Certains vont dire que les précédents étaient un peu plus aboutis que le Strive, le Xer, The Revelator et compagnie. Mais honnêtement, malgré tout, ça reste quand même une expérience assez dingue. Et même si vous ne poussez pas, voilà, visuellement, c'est extraordinaire.
Ouais, c'est un truc à tester en tout cas. C'est un jeu qui vaut le coup d'être téléchargé dans le Game Pass. Moi, j'avais acheté Xer en solde à un moment. Et je pouvais pas me justifier d'acheter Strife après. Et comme il arrive dans le Game Pass, c'est parfait. Bon, il y a aussi Valheim. Hein, si vous voulez jouer aux Vikings qui survivent, vous pouvez y aller aussi. Et puis quoi d'autre ? Si vous voulez un MetaQuest Pro, vous ne le payerez plus que 1000 euros, enfin 1000 dollars au lieu de 1500 dans très peu de temps, divisé par de 30%, enfin réduit de 30%, c'est quand même pas rien pour un casque de ce type-là. Et puis il y a Dead by Daylight qui va être adapté en film. Et Dead by Daylight, c'est un jeu qui est intéressant, mais c'est aussi un jeu dans lequel il y a genre Freddy Krueger, Jason, Ghostface, etc., qui sont dans le jeu. Donc est-ce qu'ils vont adapter le jeu avec les personnages dont ils ont acheté les licences ? C'est pas très clair, mais j'ai l'impression qu'ils le disent dans l'article de Polygon qu'il annonçait. Ça serait intéressant de voir une sorte de Avengers des psycho-killers dans le film tiré du jeu Dead by Daylight. Moi, je serais très intéressé de voir ça, quoi.
Le film tiré du jeu tiré du film.
c'est ça. C'est le film tiré du jeu tiré des films. Enfin, pas tiré, mais avec les licences des films qui l'ont inspiré. C'est
les gars, dites juste que vous voulez faire un crossover sur des slashers de légende et basta, quoi. Qu'on arrête un peu le...
Mais c'est... là, c'est exactement ça. C'est vrai, si ça se fait de cette manière. Faut avouer que s'il n'y a pas les psycho-killers des années 80, tout à coup, le film perd de son intérêt, quoi. C'est juste Dead by Daylight, pourquoi pas, hein, ça peut être un nouveau film.
Non, mais je comprends l'opportunité, évidemment.
C'est ça. Et voilà pour notre émission qui se termine, notre épisode du rendez-vous jeu. Merci à vous deux d'avoir été avec moi. Et avant de se quitter, évidemment, j'aimerais vous demander où on peut vous retrouver sur Internet. Commençons avec Mehdi. Où es-tu ? Rappelle-le-nous, s'il te plaît.
Eh ben, essentiellement, c'est centralisé, c'est M le Mehdi, M comme le verbe, que je vais vous mettre dans le chat pour celles qui veulent, pour laisser la place à Escarina. Et vous trouverez effectivement les lives Twitch tous les vendredis soirs, aux alentours de 21h30. Et sinon, bah, des streams qui pop, de la publication de Twitter, du TikTok, comme j'ai annoncé tout à l'heure. Donc, je vais pas mal me mettre dans du short et des vidéos un peu plus d'analyse sur YouTube à venir. Donc voilà, je suis très content en plus d'être revenu parce que ça synchronise avec le fait qu'il y a pas mal de belles choses qui arrivent. Donc M le Mehdi, vous trouverez ça, Linktree et autres, tout est rassemblé et bien rangé. Voilà.
Magnifique. Bah, on mettra le lien vers le compte Twitter dans les notes de l'émission comme on le fait habituellement. M le Mehdi, c'est une injonction un petit peu quand même.
Pour la blague, je fais très vite, mais sache que à la base, je voulais faire le M en référence au film de Fritz Lang, évidemment, et c'était déjà pris partout. Donc, je réfléchis 2 secondes, mon humour de merde me rattrape, et là, je me dis, tiens, il y a un jeu de mots à faire, et voilà, l'histoire était en marche.
Très bien. Escarina, où es-tu, dis-moi ?
Alors moi je suis sur Twitter, escarina_, sur kissmygeek.com, d'ailleurs j'ai publié hier un petit test de Cult of the Lamb, donc pour ceux qui voudraient avoir la version longue de mon avis, c'est sur kissmygeek, et puis mensuellement chez les petits trublions de Super Gamerside.
Magnifique, merci beaucoup Esca, le lien vers ton compte Twitter sera également dans les notes de l'émission, et vous retrouvez aussi dans les notes de l'émission tout ce que je fais, c'est-à-dire le rendez-vous jeu, bon, vous êtes dessus, donc vous connaissez le rendez-vous tech, où on parle de l'actu tech. Vous avez aussi le Discord, où on est avec des gens sympathiques entre nous, et on s'amuse bien. Et vous avez également le Twitch, où on se retrouve tous les mardis midi et le jeudi midi. Alors, la semaine prochaine, je suis off, mais généralement, c'est en live à ce moment-là. Et puis, bien sûr, le Patreon, patreon.com/rdvjeu. Quand vous arrivez chez vous, cling, les clés dans le bol, et là vous dites « Oh putain, j'ai encore oublié Patrick !» Bon, ce coup-ci, c'est bon, j'y vais. patreon.com/rdvjeu. Merci à vous tous et à vous toutes. On se donne rendez-vous dans une semaine pour l'épisode spécial préenregistré, et dans 2 semaines pour le retour de l'émission en live, en vrai. Ciao, ciao, à très vite.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.